إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم on ce lundi 5 Jumada الثانية 1429 de l'Hégire, ce qui correspond à lundi le 9 juin 2008 بإذن عز وجل dans le 25e cours, dans le 25e cours de la musulmane, ou bien de la personnalité de la musulmane. Voyez, nous sommes, inshallah ta'ala, avec le nouveau chapitre aujourd'hui, le nouveau chapitre qui s'appelle son comportement vis-à-vis de ses amis et ses sœurs en religion. Avant cela, je dirais très vite que le chapitre passé parlait de qui ? Parlait du voisin. Et on a montré comment que notre islam a beaucoup exhorté les musulmans à ce qu'ils donnent beaucoup d'importance au voisin, même si le voisin est un kafir. Subhanallah al-Azim, na'am. Et bien sûr, peut-être que, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas, le hadith de Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhuma. Une fois, quand il est arrivé à la maison, il a trouvé qu'on était en train de dégorger un mouton à lui, et on l'avait égorgé, on était en train de le couper. La première des choses qu'il a demandé, vous savez ce qu'il a dit ? Dans un hadith rapporté par Abu Daoud ou bien Tirmidhi, et Shibani Allah Yarhamou a dit hadith authentique. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? La première des choses, il a dit: est-ce que vous avez donné un morceau à notre voisin le juif? Comme ça, est-ce que vous avez donné un morceau du mouton à notre voisin le juif? Au point, je me rappelle bien, radiallahu ta'ala anhu, qui s'est étonné. Il lui a dit: le juif? Tu as dit le juif? Il lui a dit: oui, le juif. J'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, yani beaucoup insister sur qui? Sur le voisin. Subhanallah al-Azim. C'est un hadith authentique. Naam. Al-Muhim. Je crois même qu'il a dit, il a tellement, yani, Jibril a tellement insisté que on avait cru qu'il allait le faire hériter. Je crois qu'il s'est basé sur ce hadith. Al-Muhim. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, on passe à quelque chose de très important. Son comportement, le comportement de la musulmane vis-à-vis de ses amis et ses sœurs en religion. Et ça aussi, c'est très important. Petit 1, on va voir combien il y a, inshallah ta'ala, de sous-chapitres. Une seconde pour voir combien il y a de sous-chapitres. Donc il y a 13 sous-chapitres. Elle les aime pour plaire à Allah. Naam. On commence, inshallah ta'ala. Bismillah, wassalamu alaykum wa sallam. La relation de la musulmane sincère avec ses amis se distingue de celle des autres femmes. Elle est basée sur la fraternité qui aspire à l'amour d'Allah Azzawajal. Ce genre de fraternité est le rapport le plus sublime qui puisse lier une personne à une autre, homme ou femme, car il est basé sur la foi commune qu'Allah Azzawajal a établie entre croyants lorsqu'il a dit: Sourate 49, verset 10, Mu'minuna, ikhwa. Certes, les croyants sont frères. Ghourab, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. La fraternité de la foi est le lien le plus solide et le plus durable entre âme et esprit. Ce n'est donc pas surprenant de constater qu'elles produisent un amour sublime, naam, profond et pur. C'est un amour pour Allah, un amour sincère, un amour purifié de tout intérêt et de toute ambition liée à ce bas monde. Un amour saint, suscité par la révélation et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un amour qui permet à tout croyant et à toute croyante de vivre la douceur de la foi. Le messager d'Allah alayhi salatu salam a dit: celui qui répond à ces trois qualités savourera la douceur de la foi. C'est quoi ces trois qualités? Aimer Allah et son messager plus que tout autre être, aimer quelqu'un uniquement pour l'amour d'Allah, et troisièmement, redouter de retourner à la mécréance après en avoir été délivré par Allah, comme le fait de redouter d'être précipité en enfer. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Naam. Donc ici l'auteur Hafidahullah, naam, de Mu'azzawajal, naam, ce n'est plus comme les autres liens. Naam. Car le lien qui est basé sur l'amour d'Allah Azzawajal, c'est un lien durable. C'est un lien qui dure. Car Allah Azzawajal, c'est le premier, c'est le dernier. Donc il va durer ce lien jusqu'à la mort. Mais quand le lien est basé sur quoi? Quand il est basé sur les intérêts, naam, et sur les avantages, alors dès que la personne en sent qu'on ne peut rien tirer d'elle, les intérêts sont terminés, elle est devenue pauvre, elle a quitté son poste, naam, elle n'est plus directeur, elle n'est plus directrice, elle n'est plus ministre, alors les liens commencent à s'affaiblir, voire même à devenir inexistants. Pourquoi? Car ils ne sont pas en Allah Azza wa Jalla. Mais les liens qui sont en Allah Azza wa Jal, naam, ne se terminent jamais et ne se rompent jamais, sauf s'il y a d'une part, naam, ou de l'autre, naam, quelque chose qui va à l'encontre de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Naam. Moi j'ai toujours dit, comme ça quand je dis aux gens, je leur dis, l'un des signes que yani, on a fait connaissance pour Allah Ta'ala, vous savez quel est l'un des signes qui montre que je t'aime en Allah et pas pour autre chose, c'est que après avoir fait ta connaissance, naam, je ne demande pas qu'est-ce que tu travailles, naam, je ne cherche pas à savoir est-ce que tu es ministre ou est-ce que tu travailles dans la poubelle, naam, ça a un nom, je sais pas comment on dit ça. Naam, là tu travailles. Non. J'ai vu yani, ta façon de t'habiller, j'ai vu ton comportement, j'ai vu ta science. Classe, c'est pour ça que je t'ai aimé. Maintenant que tu sois, comme j'ai dit tout à l'heure, ministre, naam, que tu sois restaurateur ou là que tu sois femme de ménage, naam, ça me gêne pas. L'essentiel, je t'ai aimé. Lui qui n'aime pas Allah Azza wa Jal fait la différence. Naam. Si la personne qui vient de connaître à un poste, mashallah, ou bien les riches, il tient à elle. Il lui téléphone toutes les 5 minutes. Et il n'arrête pas de lui dire, je t'aime en Allah Ta'ala. Alors que ce n'est pas vraiment de parenthèse. Naam. Et s'il découvre la personne est pauvre ou là ne travaille pas ou là, il se dit dans son cœur, quel avantage vais-je avoir en faisant la connaissance avec cette personne? Naam. Et il ne sait pas que l'amour en Allah Azza wa Jal, c'est tout autre chose. Tu le fais pour Allah, pas pour la personne. Tu veux wajh Allah Azza wa Jal. Tu veux wajh Allah Azza wa Jal. Naam. Je veux le visage d'Allah. Je ne te veux pas toi, ni naam, ta position sociale, naam, ni tu travailles quoi, ni quelles sont tes relations sociales. Je veux ce qui me plaît en toi, c'est la science que tu as, c'est la sunna que tu pratiques. Naam, c'est ton djilbab, masha'Allah, qui est large. C'est ceci. Naam, c'est ça l'amour en Allah Azzawajal. Ensuite, il s'est basé sur le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Bukhari ou Muslim, qui dit quoi? Écoutez bien ce qu'il dit. Celui qui répond à ces trois qualités savourera la douceur de la foi. Et vous remarquez avec moi ici que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit quoi? A employé le mot savourera la douceur de la foi. Donc la foi, naam, ça se savoure, naam, ça se goûte. C'est pour ça qu'il a dit dans un autre hadith, dhaqa ta'm al-iman, a goûté, naam, a goûté la douceur de la foi, naam, man radiya billahi rabban, celui qui yani a agréé que Allah soit son Seigneur qu'on est ici. Ce que je veux dire ici, c'est que la foi, ça a une douceur qu'on peut goûter. La foi, ça te donne quelque chose dans le cœur que tu ne pourras pas acheter avec des millions d'euros. C'est pour ça que vous trouvez des milliardaires, puisqu'ils n'ont pas la douceur de la foi, et ils n'ont pas la foi aussi, entre parenthèses, ils se suicident. Et vous trouvez des pauvres qui ne travaillent même pas, et s'ils travaillent, ils mangent seulement un sandwich, il ne peut pas arriver, et c'est lui le plus heureux. Il se sent le plus heureux du monde. Pourquoi? Il a la foi et sa douceur en plus. Sa douceur. C'est une chose que Allah Ta'ala donne d'après la sincérité que tu as dans le cœur et d'après l'amour que tu lui voues à lui, Azza wa Jal, et d'après yani, ce que tu fais comme adoration surérogatoire, comme nafila, comme Allah Azza wa Jal te donne une douceur qu'il ne donne pas à une autre personne. Et une douceur. Que seule la personne peut savourer. Hein, qui était, comme vous savez, la pauvre, disait, si les rois et leurs fils, c'est-à-dire les princes, pouvaient savoir ce qu'on a dans le cœur comme bonheur et comme douceur de la foi, ils nous auraient fouettés à cause de cela. Mais alhamdoulilah, que les rois et les princes et les richissimes et les milliardaires ne regardent que quoi? Ne regardent que l'apparence. Ils disent cela, c'est des pauvres masakines, des habits déchirés, en lambeaux, des souliers troués. Ils doivent être malheureux, comme ça ils pensent. Alors que les autres disent, s'ils pouvaient savoir, s'il y avait un microscope ou un stéthoscope ou je ne sais pas quoi, pour savoir ce qu'il y a dans notre cœur, ils nous auraient fouettés. Par quoi? Par jalousie. Par jalousie. Donc, l'essentiel c'est quoi? C'est ce qu'il y a dans le cœur. Ce n'est pas les apparences. Ce n'est pas les apparences. Non. Donc, pour avoir cette douceur de la foi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplir trois conditions qui sont citées ici dans ce hadith. La première condition, celui qui aime Allah Ta'ala et son messager plus que tout autre être. Non. Si tu aimes quelqu'un du style être ton père, ou bien ton grand-père, ou bien ta mère, plus que le messager d'Allah, ou bien plus qu'Allah Azza wa Jal, tu ne goûteras jamais la douceur de la foi. Ça, c'est la première condition. Tu dois aimer ton Seigneur qui t'a créé. Ensuite, le messager d'Allah, plus que toutes les personnes qui existent au monde. D'ailleurs, vous connaissez le hadith sahih. La yu'min wa ahadukum hatta yakuna habbayli min walidihi walidi wa nasi ajma'in. Il a dit, personne n'aura la vraie foi jusqu'à ce que, naam, il m'aime. Je sois plus aimé à lui que ses parents, ses enfants et tout le monde. Donc la première condition, si tu veux que Allah Ta'ala te donne la douceur de la foi, et alors, s'il te la donne, tu te sentiras la personne la plus heureuse dans le monde, avec toute la pauvreté que tu puisses imaginer. Si tu étais la plus pauvre, tu serais la plus heureuse si tu as la douceur de la foi. Naam. Alors qu'en est-il si quelqu'un est riche? Qu'en est-il si quelqu'un est riche? Donc, premièrement, on doit aimer Allah Azza wa Jal et son messager plus que tout être, tout autre être. Deuxièmement, aimer quelqu'un uniquement pour l'amour d'Allah. Voilà la deuxième condition qui est un peu difficile pour nous qui ne sommes pas sincères. C'est quoi la deuxième condition? Aimer quelqu'un uniquement pour l'amour d'Allah. Naam, je ne t'aime pas parce que tu es Naam, comme j'ai dit tout à l'heure, ministre, ou là parce que tu es ingénieur, ou là parce que tu es médecin, je t'enfile là. Alors que mon but, c'est seulement ta fille. Non, je n'ai aucun intérêt avec toi. Je t'ai aimé en Allah Azzawajal. Si quelqu'un peut aimer une autre personne en Allah Azzawajal et seulement en Allah, et Allah sait si c'est en Allah ou ce n'est pas en lui. Nous, on ne peut pas savoir. Mais si vraiment quelqu'un aime une personne pour Allah Azzawajal, alors il a quoi? Il a eu la deuxième condition. Il reste la troisième, c'est quoi? La troisième, redouter de retourner à la mécréance après en avoir été délivré par Allah, comme il redoute d'être précipité en enfer. Regardez-nous tous, moi le premier et vous qui m'entendez, et surtout les convertis, les reconvertis. Naam. Comment se fait-il? Allah Azzawajal nous a choisi, a fait descendre la foi dans nos cœurs, naam, et on a délaissé le mauvais chemin pour ceux qui étaient musulmans, même pour les kuffars. On a tous, alhamdoulilah, délaissé le mauvais chemin, le chemin de l'enfer, le chemin de la perversité, le chemin de la mécréance, le chemin de la zina, le chemin de la drogue, le chemin de l'alcool, le chemin de la fornication, le chemin du vol. Et on est, mashallah, sur le chemin d'Allah Azzawajal, le chemin du paradis, le chemin des délices, le chemin de tout ce que tu souhaites avoir dans l'au-delà. Subhanallah al-Azim. Qui nous a donné cela? Allah Azzawajal. Qui suis-je moi? Qui es-tu toi pour qu'il nous ait choisi? Yani, vraiment, on mérite ça. C'est Allah Azzawajal qui a voulu, naam, wa tafadhala alayna, dit, je guide X, X et Y et l'autre et l'autre, et il nous a guidés. Donc maintenant, après que Allah Ta'ala nous ait guidés, il faut quoi? Il faut redouter de revenir dans l'ancien chemin. Redouter de revenir dans le mauvais chemin. Redouter de revenir dans la mécréance. Redouter pour la femme de revenir à la mini-jupe. Maintenant qu'elle est en djilbab, mashallah, est voilée, elle redoute qu'elle retombe et revienne à la mini-jupe, qu'elle revienne au dancing, qu'elle revienne aux fréquentations, aux hommes, ou à la cigarette, à ceci. Alhamdulillah, maintenant elle redoute. Dans son cœur, elle veut pas cela. Et elle a peur, elle craint Allah Azzawajal qui lui renverse son cœur, s'il voit en elle qu'elle n'est pas sincère et qu'elle voudrait revenir. Si elle veut revenir, Allah Ta'ala ne va pas nous retenir dans ce sentier avec des quoi? Avec des chaînes. Allah Ta'ala n'aime pas que tu l'adores avec des chaînes. Il aime que tu l'adores avec désir. C'est toi qui veux l'adorer. Ce n'est pas, il va te forcer à l'adorer. Donc, si quelqu'un remplit ces trois conditions, il va savourer, masha'Allah, quoi? Les délices, naam, les délices de la foi. La douceur de la foi. Deuxièmement, vous écrivez deuxièmement, le mérite de celles qui s'entraînent pour satisfaire Allah. Le mérite de celles qui s'entraînent. S'entraînent. Naam. Ah, jazakallahu khairan. Quel est le mérite des sœurs qui s'entraînent pour satisfaire Allah Azzawajal? Une multitude de hadiths mentionnent le mérite de ceux qui s'entraînent pour l'amour d'Allah Azzawajal. Cette multitude de hadiths affirme leur haut rang et annonce le noble statut que Allah Ta'ala leur accordera dans l'au-delà. Regardez, l'un de ces hadiths nous informe que Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, Allah Azzawajal favorisera ceux qui s'entraînent exclusivement pour lui. En faisant quoi? En les interpellant par ces termes. Allah Ta'ala, le jour de la résurrection, imaginez, qu'est-ce qu'il va dire? Écoutez ce qu'il va dire. Où sont? Alors que lui, il sait où ils sont. C'est pour que les gens, les autres, entendent la question, et yani pour les attirer, pour attirer yani leur attention. Naam, il va dire, où sont ceux qui se sont entraînés pour ma majesté. Aujourd'hui, je les couvre de mon ombre, car aucune ombre n'existe en ce jour à part la mienne. Rapporté, hadith rapporté par Muslim dans son Sahih, voir Sharh Sahih Muslim, volume 16, page 123. Imaginez le jour du monde dernier, Allah Ta'ala qui va dire où sont ceux qui se sont entraînés pour ma majesté. Aujourd'hui, je vais les couvrir de mon ombre, car aucune ombre n'existe outre que la mienne. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla va dire où sont ceux qui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont entraînés pour Allah Azza wa Jalla. Ceux-là, Allah Ta'ala va les demander, il va dire où sont-ils, c'est-à-dire demande aux autres aussi de les regarder. Regardez ceux-là, ils se sont entraînés pour ma majesté. Ce n'est pas pour les intérêts, comme j'ai dit tout à l'heure. Je n'ai pas fait connaissance avec toi parce que tu es médecin et je dis que demain quand je serai malade je vais me soigner chez lui, ni parce que tu es mécanicien parce que j'ai une voiture, je dis demain si je tombe en panne c'est bien donc de faire connaissance de cette personne, ni parce que tu es commissaire de police, comme ça si j'ai des problèmes vite je te téléphone. Non, c'est pas pour cela que j'ai fait connaissance avec toi. Pour Allah, j'ai vu la sunna, j'ai vu la science que tu as, j'ai vu ton comportement, j'ai vu ta sincérité, c'est pour cela que je t'ai aimé, pas pour autre chose. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, si on est sincère et on aime pour Allah, on ne demande pas à la personne tu travailles en quoi, non, c'est quoi ton poste, c'est quoi, non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ton din. Je t'ai aimé en Allah Azza wa Jalla. Donc ce jour-là, ceux-là vont être favorisés. Par quoi? Le fait d'être sous l'ombre, alors qu'il n'y a aucune ombre, ni parapluie, ni arbre, ni un bâtiment sur lequel tu vas te cacher ou là. Il n'y a rien. Il y a seulement l'ombre d'Allah Azza wa Jalla. Dans un autre hadith, l'ombre du trône. Naam. Ce jour-là, il n'y a ni ombrelle, ni casquette, ni béret, ni rien, ni foulard sur la tête. Seulement l'ombre d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal qu'il nous aide à ce qu'on s'entraîne. Naam. Ensuite, il a dit ici, si ceux qui s'entraînent pour l'amour d'Allah ne bénéficiaient que de cet appel élogieux et de cette noble faveur en ces instants pénibles et terrifiants, cela leur aurait suffi. Cela est en effet plus qu'une assurance. C'est une faveur particulière qui conforme leur noblesse et leur mérite. Aimer son co-religionnaire, c'est-à-dire aimer son frère dans le din, exclusivement pour Allah, n'est pas un simple sentiment qu'on parvient facilement à acquérir. Naam. Nous, on est quoi et on est comment? On est, si je puis dire, avare. On est des gens qui cherchent des intérêts. La plupart, on est comme ça. Naam. Ce qui m'intéresse, moi, c'est qui celui-là. Naam, il travaille où? C'est quoi son poste? C'est plus important pour moi que il a la science ou il a le dénou là. Naam, c'est comme ça qu'on pense quand on est faible, quand on n'a pas la douceur de la foi. Alors il a dit, caractériser qu'il est par la sincérité et le dépassement de tout intérêt relatif à ce bas monde, seuls, je dis bien seuls les âmes purifiées qui préfèrent l'agrément et la récompense d'Allah au plaisir de la vie présente peuvent l'atteindre. Naam, comme je l'ai dit, personne ne peut atteindre naam, ce degré. Seuls les âmes purifiées qui préfèrent l'agrément et la récompense d'Allah au plaisir de la vie présente. D'où le mérite, le statut prestigieux et l'immense récompense réservée à ceux qui s'aiment en Allah Azza wa Jal. On rapporte qu'à ce sujet, Mu'ad ibn Jabal, qu'Allah Azza wa Jal l'agré, le compagnon Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah l'agré, a dit, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah Azza wa Jal a dit, ceux qui s'entraînent pour ma majesté auront des chairs en lumière que même les prophètes et les martyrs convoiteront. Allahu Akbar. Vous avez entendu avec moi? Qu'a dit le messager d'Allah alayhi salatu salam? Il a dit, Allah Azza wa Jal a dit, c'est-à-dire c'est un hadith Qudsi, c'est un hadith Qudsi. Allah Ta'ala a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Ceux qui s'entraînent pour ma majesté, si deux personnes se sont aimés à cause de moi, c'est le mimbar, manaber. C'est comme où on monte pour faire la khutbah du Jumu'ah, le prêche du Jumu'ah, le mimbar. Naam. Auront des chairs en lumière. C'est pas des chairs en bois, ni en bois rouge, ni en teck, ou là comment ça s'appelle. Des chairs en quoi? En lumière. En lumière, naam. Imaginez la chose en lumière. Spécialement, naam, il a dit que même les prophètes et les martyrs convoiteront, au point où les prophètes, subhanallah l'adhim, et les martyrs diront, ah si on pouvait avoir des chairs pareilles, ceux-là, naam, wallah, ils ont atteint vraiment un degré, naam. Au point, comme j'ai dit tout à l'heure, les messagers et les martyrs vont les convoiter et se dire dans le cœur, ah, si on pouvait avoir des chairs pareilles. Subhanallah l'adim. C'est dire quoi? C'est dire, naam, le haut degré et la grande, grande récompense et le grand agrément d'Allah Azza wa Jal qui sera sur ceux qui s'entraînent en Allah Azza wa Jal. Le hadith que je viens de citer est rapporté par Tirmidhi. Naam. Et c'est un hadith Hassan Sahih, authentique, authentifié par Sheikh Al-Albani Rahimahullah. Dans Sahih al-Jami' numéro 4312. Naam. Dans un autre hadith, on apprend qu'Allah Azza wa Jal gratifie ceux qui s'entraînent pour lui par une faveur encore plus noble et pleine de bénédictions. Une faveur convoitée par tous les croyants sincères, mais qu'il n'accorde qu'aux privilégiés parmi eux. C'est quoi? Son amour. L'amour d'Allah Azza wa Jal. D'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, écoutez bien le hadith qui va venir inshallah ta'ala. D'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y avait une fois un homme qui se rendait à un autre village que le sien pour visiter son frère en religion. Un homme est parti visiter son frère en religion dans un autre village, ou disons dans une autre ville, si je puis dire. Et vous savez qu'autrefois, il n'y avait ni bus, ni voiture, ni rien. Sûrement qu'il est allé à pied, ou bien sûr à Dodan, ou bien El Mohim. Écoutez ce qui s'est passé. Allah Azza wa Jal envoya Allah attendre sur son chemin. Alors Allah Ta'ala a envoyé un ange sous forme de personne, bien sûr. Il lui a dit, attends cette personne qui va passer par là. Et quand l'homme arriva près de l'ange, l'ange lui demanda, où comptes-tu aller? Pardon, je voudrais te poser une question. Est-ce que je peux savoir où tu veux aller en prenant ce chemin? Il a répondu, je compte rendre visite à un frère en religion dans ce visage, dans ce village. Réponse, je vais rendre visite à un frère dans ma religion, dans ce village. Alors l'ange lui a posé la question suivante. Lui as-tu accordé une certaine faveur en raison de laquelle tu te rends chez lui? C'est-à-dire que l'ange lui a dit, ton frère dans la religion, parce que tu lui as rendu une faveur, c'est-à-dire tu voudrais aujourd'hui que lui, il te rende la même chose, tu lui as rendu service, donc tu es allé pour qu'il te rende aussi service, et comme ça, qu'a répondu la personne? Lui a dit, non, répondit l'homme, mais parce que je l'aimais je l'ai aimé pour Allah Azza wa Jal. Non, je ne vais pas chez lui à cause d'un service, mais je vais chez lui car je l'ai aimé en Allah Azza wa Jal. Alors l'ange lui a dit, sache que j'ai été envoyé par Allah Azza wa Jal pour t'annoncer qu'il t'aime autant que tu as aimé ton frère pour lui. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imagine, Allah Ta'ala t'envoie une personne, t'envoie un ange pour te dire que Allah Ta'ala t'aime et il te dit je t'aime. Imaginez ça, Allahu Akbar. Allah Ta'ala te dit je t'aime. Naam. Nous, si on nous envoie juste, je ne sais pas qui, un ministre, il nous dit X, s'il t'a envoyé pour te dire que je t'aime, tu commences à trembler. Tu ne vas pas dormir la nuit. Subhanallah, un ministre qui m'aime, le président de la République qui m'aime. Oh, Allahu Akbar, c'est à peine croyable. Alors que le président de la République, yani, malgré quand il est musulman, c'est tous ces personnes qui dorment, qui va aux toilettes, qui ceci, t'envoie quelqu'un pour te dire non, je t'aime comme tu as aimé ce frère pour lui. C'est un hadith rapporté par Muslim, bien sûr, un hadith authentique. Si vous voulez, vous pouvez voir Sharh Sahih Muslim, volume 16, page 124. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal qui envoie un ange spécialement pour une personne pour lui dire Naam, si cette personne va te répondre que elle va dans un autre village à cause d'une visite pour moi, pour Allah, alors avertis-lui et annonce-lui la nouvelle que je l'aime. Allahu Akbar, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais en fin de compte, regardez, vous ne voyez pas que pour s'attirer l'amour d'Allah, en fin de compte, ce n'est pas une chose difficile. C'est seulement nous qui ne voulons pas. C'est nous qui n'avons pas assez occupés par la dunya, trop occupés par l'euro, trop occupés par les habits, trop occupés par les enfants, trop occupés par la voiture, et comme ça, le travail. Non. Sinon, il te suffit juste de dire aujourd'hui, je vais rendre visite à mon frère, fillah. Et la sœur dit, aujourd'hui, je vais voir ma sœur, Rachida, je vais aller chez ma soeur Rachida, fillah, pour Allah. Je ne vais pas lui dire, est-ce que tu connais quelqu'un pour me marier? Ni je vais lui dire, je suis venu emprunter de l'argent. Ni lui dire, je suis venu que tu me prêtes, naam, tes habits. Non, je suis venu te voir pour Allah Azza wa Jal. Cela, mais où sont de nos jours ceux qui font cela? C'est ça le problème. Où sont de nos jours ceux qui yani, peuvent aller d'une ville à une autre juste pour le visage d'Allah Azza wa Jal? Ya Rabbi kun lana kun ma'ana. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fortifie notre foi pour qu'on arrive à faire cette chose. Pour qu'on arrive à cette chose qui, subhanallah, elle est simple, mais le shaitan la rend difficile. C'est le shaitan qui la rend difficile. Il a dit, conscient qu'il était de l'importance de cet amour saint et de son impact sur la consolidation des relations humaines, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de le recommander aux croyants et de les inciter à le déclarer les uns aux autres pour mieux propager l'esprit d'affection pour les croyants, parmi les croyants. Donc en islam, non seulement on doit aimer quelqu'un, on doit aimer nos frères, mais mieux encore, on doit le leur dire. Écoutez ici, on rapporte que Anas ibn Malik, qu'Allah Azza wa Jalla l'agré, a dit, un homme qui était auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à propos d'un autre homme qui passait. Donc il y avait un homme qui était auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a vu une personne passée. Alors cet homme, qu'a dit-il au messager d'Allah? Il lui a dit, ô messager d'Allah, j'aime cet homme. Ô messager d'Allah, j'aime cet homme. Alors le messager d'Allah lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'en as-tu informé? Naam. L'en a-t-il répondit-il? Il a répondu non, je ne lui ai pas dit cela. Alors le messager d'Allah lui a dit, lève-toi donc, lève-toi et va le lui annoncer. Alors l'homme se leva et se dirigea vers la personne désignée par lui et lui a dit, sache que je t'aime pour Allah. Sache que je t'aime pour Allah. Naam, sache que je t'aime pour Allah. Alors l'autre lui a répondu, qu'Allah, pour qui tu m'as aimé, t'accorde son amour. Qu'Allah, pour qui tu m'as aimé, t'accorde son amour. Hadith rapporté par Abu Daoud, volume 4, page 452, est jugé authentique. Cheikh Al-Albani a dit dans Sahih Abi Daoud, numéro 5125, il a dit, hadith bon, hadith hasan. Donc, il est de la sunna, quand quelqu'un aime quelqu'un, de le lui dire. Naam, il va chez lui, et il lui dit, je suis juste venu pour te dire, et t'annoncer la nouvelle, que je t'aime en Allah Azza wa Jal. Ou bien il lui téléphone, et lui dit, comment vas-tu, alhamdoulilah, jazakallahu khair, c'est juste pour te dire que je t'aime en Allah Azza wa Jal. Naam. Et l'autre lui répondra que celui pour qui tu m'as aimé t'accorde son amour. Yani je demande à Allah Azza wa Jal qu'Allah, pour qui tu m'as aimé, t'accorde son amour. Naam. Seulement ici, j'attire votre attention sur une petite chose, mais très importante, laquelle, naam, ne le faites que par sincérité. Ne le faites que par sincérité. Car, naam, je connais des gens, et je leur ai fait cette réflexion, naam, qui disent beaucoup à d'autres personnes, je t'aime Allah, je t'aime Allah, je t'aime Allah, alors que dans le cœur, ce n'est pas vrai. Alors ne le faites pas, car ça va rentrer dans le mensonge. Que telle personne tu l'aimes, alors il est très conseillé que tu le lui dises, que tu lui dises, je t'aime en Allah Azza wa Jal. Et l'autre te répondra, qu'Allah Azza wa Jal t'aime pour m'avoir aimé. Mais comme j'ai dit, il faut que ça soit quoi? Il faut que ça sorte yani, d'un cœur sincère et de ne pas faire comme beaucoup d'autres gens le font aussi par intérêt. Naam. Car même cette chose, ça se fait par intérêt. Des gens disent, je t'aime en Allah, c'est juste pour essayer de l'attirer et de ensuite profiter de lui. Naam. Parce qu'il est riche par ceci, par cela, je lui dis, je t'aime en Allah. Et le pauvre, je lui dis jamais, je t'aime en Allah. Naam. Attention donc à tomber dans l'hypocrisie. Naam. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne se contentait pas de recommander, yani aux gens, aux musulmans, de dire, à leur enseigner comment bâtir une société sur la base de fraternité et d'amour saint. Un jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la main de Mu'ad ibn Jabal, qu'Allah l'agré. Ensuite, il lui a dit, par Allah, c'est le messager d'Allah qui dit à qui, à Mu'ad ibn Jabal, il lui dit, par Allah, je t'aime, ô Mu'ad. Et il lui a donné une nasiha, je te recommande donc de ne jamais oublier de dire, après l'accomplissement de chaque prière, qu'est-ce que tu dois dire? Ô Allah, aide-moi à t'évoquer, à t'exprimer ma reconnaissance et à t'adorer de la façon la plus parfaite. C'est-à-dire quand quelqu'un termine la salat, vous connaissez, il dit astaghfirullah, 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 l'homme tassalam, minka salam, tabarak tel jalal ikram. Il dit aussi, Allahumma a'inni ala dhikrik, wa ala shukrik, wa ala husni ibadatik. C'est-à-dire, ce qu'a recommandé ici le messager d'Allah, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, à Mu'ad ibn Jabal. Il lui a dit, n'oublie pas, après chaque salat, tu dis quoi? Tu dis, en français ça donne, oh Allah, aide-moi à t'évoquer. Allahumma a'inni ala dhikrik. À t'exprimer ma reconnaissance, wa ala shukrik, et à t'adorer de la façon la plus parfaite, wa ala husni ibadatik. C'est un hadith rapporté par Ahmed ibn Hanbal et jugé authentique, volume 5, page 245. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam جزاك الله خير الغرباء. لو ميساج ديال الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم lui aussi appliqué. Vous avez remarqué qu'est-ce qu'il a dit à Mu'ad ibn Jabal? Il lui a dit, par Allah, je t'aime, ô Mu'ad. Subhanallah al-Azim. Non seulement je t'aime, mais par Allah, je jure, par Allah, que je t'aime, ya Mu'ad. Et remarquez autre chose très important. Qu'a-t-il fait avant de lui dire la phrase? Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pris par sa main. Regardez, quand un frère prend un autre frère par sa main, avant de lui dire la chose. Cette façon de le prendre par la main, ça a un impact. Tu sens quelque chose dans ton cœur. Quand quelqu'un te prend ta main, tu sens yani, ces sentiments qui viennent de son cœur. Tu sens qu'ils descendent dans ton cœur. Mais la même chose, quand une sœur prend la sœur prend la main de sa sœur, avant de lui dire quelque chose. Elle sent des sentiments yani, qui descendent dans le cœur. Imagine le message là, qu'est-ce qu'il a dit? Il l'a d'abord pris par la main, ensuite il lui a dit, par Allah je t'aime ya Mu'ad, par Allah je t'aime ya Mu'ad. Et le fait de prendre la main, comme j'ai dit, ça a eu un grand grand rôle pour yani, raffermir les cœurs, apaiser les cœurs, attirer les cœurs aussi, attirer les cœurs. Peut-être que vous vous souvenez avec moi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, ou du moins bon, qui se trouve dans Sahih Jama' de Sheikh Al-Albani. Il a dit quoi? Il a dit, si vous vous rappelez, je vous l'ai dit une fois, attendez comment il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que il était interdit, si quelqu'un voulait faire la nasiha, si quelqu'un voulait faire, comment on dit nasiha en français? S'il veut faire, attendez, je cherche le mot, nasiha, si quelqu'un veut donner conseil, il a dit, si quelqu'un veut donner conseil, si quelqu'un veut donner conseil à un gouverneur, il a dit qu'il n'a pas le droit de le dire comme ça devant les gens. Mais il a dit qu'il reste en tête à tête avec lui. Regardez, première des choses, tête à tête avec lui. Deuxièmement, il a dit qu'il prenne sa main. Et troisièmement, qu'il lui dise. Donc, regardez, on ne fait pas comme les tekfériyons. Les tekfériyons, à la télévision, les radios, la radio, les journaux, les cafés, partout. Le gouverneur, il est kafir, il est taroute. Nous, quand on a quelque chose à dire au gouverneur, on va chez lui en tête à tête. Si on ne peut pas, on lui écrit une lettre. Et la deuxième des choses qui a rapport avec notre cours, c'est quoi? Il a dit, Alhamdoulilah, je n'accepte pas, tu as fait l'essentiel. Donc pourquoi il a dit tu le prends par la main? Car prendre quelqu'un par la main, yani, c'est déjà des cœurs qui commencent à se rapprocher. Tu sens, fais-le. Si tu ne me crois pas, fais-le. Prends ton frère par la main, serre-lui la main et parle-lui et tu vas voir ce qu'il ressent et ce que tu ressens, bidna azza wa jal. C'est pour ça que le messager d'Allah a pris la main de Mu'ad. Et ensuite, il lui a dit, par Allah, je t'aime, ô Mu'ad. Ensuite, il lui a donné quoi? Il lui a donné la nasiha. Mu'ad, radiyallahu ta'ala anhu, à son tour, puisque le messager d'Allah vient de lui dire, je t'aime, en Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'engagea dans cette voie et annonça aux musulmans l'immense récompense et l'amour qu'Allah azza wa jalla a réservé à ceux qui s'entraînent pour lui. Dans son Muwatta, l'imam Malik, alayhi rahmatullah, rapporte que Abu Idris al-Khawlani a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en entrant dans la mosquée de Damas, j'ai remarqué un jeune homme au sourire brillant et qui était entouré de gens qui se référaient à lui dans leur divergence. Il a dit, m'étant enquis, ayant demandé sur son identité, en m'informant que c'était Mu'ad ibn Jabal. Il a dit, le lendemain, je me rendis tôt à la mosquée et je constatai qu'il était bien arrivé avant moi. Alors, comme il était en train d'accomplir la prière, c'est-à-dire Mu'ad était en train d'accomplir la prière, il a dit, j'attendis jusqu'à ce qu'il eût terminé. Ensuite, j'allais le voir, je me suis placé face à lui, je l'ai salué Et je lui ai dit, par Allah, je t'aime. Par Allah, je t'aime, ô Mouaz. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Écoutez ce qu'il m'a dit. En es-tu certain? En es-tu certain? Ou là, c'est une phrase que tu dis comme ça, comme une chanson que tu as l'habitude de dire. Tu es certain que tu m'aimes en Allah? J'en suis certain, lui répondis-je. J'y répondis, j'en suis certain. Il me prit alors par le pan de mon manteau, me tira vers lui et me dit, accueille donc la bonne nouvelle, apprends donc la bonne nouvelle. J'ai entendu le messager d'Allah alayhi salam, dire, Allah azza wa jalla a dit, mon amour est un droit accordé. Mon amour est un droit accordé à ceux qui s'entraînent pour moi, se réunissent pour moi, se rendent visite pour moi et se dévouent les uns aux autres pour moi. Naam. C'est un hadith qui se trouve dans Sahih Tirghib de Sheikh Al-Albani, numéro 3021. Allahu Akbar. Vous avez entendu Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Allah Ta'ala a dit, mon amour est un droit accordé à tous ceux qui s'entraînent pour moi, se réunissent pour moi, se rendent visite pour moi et se dévouent les uns aux autres pour moi. Allahu Akbar. D'ailleurs, qui de nous ne connaît pas le hadith authentique où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a son nombre le jour où il n'y aura d'ombre que son nombre. Non, vous vous rappelez ce hadith, je crois qu'il n'y a pas un musulman qui ne connaît pas ce hadith. Allah Ta'ala, le jour du jugement dernier, le jour où il n'y aura aucune ombre, ni l'ombre de l'arbre, ni l'ombre de la casquette, ni l'ombre du parapluie, ni l'ombre du parasol. Al-Muhim, cette personne va en sortir et va les mettre sous l'ombre. Parmi cette personne, ce qui a rapport avec le cours d'aujourd'hui, c'est qui? Itnani rajulani tahabba fillah ijtama alayh uftaraqa alayh. Il a dit deux personnes, il a dit deux hommes, mais deux femmes rentrent aussi. Il a dit deux hommes qui se sont aimés en Allah Azza wa Jal. Ils se rencontrent. Naam. Pour lui et se sépare pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se rencontre pour lui, se sépare pour lui. Ça a un des deux sens. Ou bien, à chaque fois qu'il se rencontre, d'Allah Azza wa Jal, de son prophète et de l'islam. Non. Il ne parle que de religion jusqu'à ce qu'il se quitte. Ou bien, d'autres ont dit, ça a un deuxième sens, il se rencontre en Allah, ça veut dire ils ont fait la connaissance, ils se sont connus dans un dancing, ils se sont connus dans une mosquée, dans une assise chez des sœurs, naam, dans une conférence, ils se sont connus, conférence où on parlait d'islam, ils se sont aimés, donc ils se sont rencontrés pour Allah et se sont séparés pour Allah. Pourquoi? L'une des deux personnes, par exemple, a dévié du chemin. L'une des deux personnes est revenue vers la mécréance. L'une des deux personnes a jeté le djilbab, naam, et a mis la mini-jupe. Maintenant, il ne m'est plus permis d'aimer cette femme-là. Celle-là qui était avec le djilbab, qui était ma sœur, maintenant, naam, quand je l'aimais avec son djilbab, j'avais des récompenses pour l'aimer en Allah. Maintenant, quand je la déteste, j'ai des récompenses. Quand je la déteste en Allah, j'ai des récompenses. Entre parenthèses, bien sûr, après lui avoir fait les nasiha et les conseils, naam, on ne sait jamais, peut-être c'est juste yani, le shaitan qui a fait comme ça, peut-être c'est juste un énervement, des soucis, ceci, cela. J'essaie de lui trouver des excuses, de voir pourquoi elle a fait cela, de l'attirer. Ensuite, quand elle me dit, moi, j'en ai marre, moi je veux profiter, j'aime la vie, je suis jeune, naam, je m'en moque de ce djibbeb, cet islam. Alors je lui dis, à partir d'aujourd'hui, si tu m'entends te dire salam alaikum, صادق جو سويز اون فول. نعم. طيب maintenant troisièmement l'effet de l'amour pour Allah sur la vie des musulmans. L'effet de l'amour pour Allah sur la vie des musulmans. طيب l'effet de l'amour pour Allah sur la vie des musulmans. L'un des objectifs de l'islam consiste à instaurer une société modèle caractérisée par la fraternité et l'affection entre ses membres. Dans cette perspective, l'islam fait de l'amour envers l'ensemble des croyants l'une des conditions de la foi sincère qui permet l'accès au paradis. Si vous voulez être rassuré de cela, écoutez ce qui va suivre. Muslim rapporte dans son livre authentique, d'après le compagnon Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez ce qu'il a dit, par celui qui détient mon âme en sa main, c'est-à-dire par Allah. Non, c'est une façon de jurer, c'est juste de jurer comme ça. Je dis, par celui qui détient mon âme, je ne vais pas aller aujourd'hui à tel endroit. C'est qui détient mon âme? C'est Allah Azza wa Jal. Donc il a dit, par celui qui détient mon âme en sa main, vous n'accéderez pas au paradis que lorsque vous aurez réellement la foi. Donc, première condition. Le messager d'Allah a juré que personne n'entrera au paradis jusqu'à ce qu'il ait vraiment la foi. C'est-à-dire le kafir, le mécréant, celui-là ne va pas rentrer au paradis. Or, il a dit, or ceci, c'est-à-dire acquérir la foi, ne se réalise que lorsque vous témoignerez de l'affection les uns envers les autres. Il a dit, et acquérir la foi ne peut se faire que si vous vous aimez. Non. Ensuite, il a dit, voulez-vous donc que je vous indique une œuvre dont l'accomplissement vous permet de vous aimer, c'est-à-dire de manifester votre affection les uns envers les autres? C'est quoi la réponse? On se donne de l'argent, on doit se donner de l'argent. Hadith rapporté par Muslim, voir Sharh Sahih Muslim, volume 1, page 135. Vous voulez vous aimer? C'est très simple. Qu'est-ce que vous faites? Échanger fréquemment les salutations. Seulement le fait de dire à ton frère salam wa alaykum, comme ça avec un visage souriant, et la sœur qui dit à sa sœur salam wa alaykum, déjà l'amour commence à rentrer dans les cœurs. Vous n'avez pas remarqué que si jamais tu dis à quelqu'un salam wa alaykum et qu'il ne te répond pas, ou bien qu'il te répond mais que tu ne l'entends pas, tu n'as pas remarqué comment ton cœur devient gros, naam, et comment les soucis rentrent dans ton cœur, tu dis subhanallah, j'ai dit salam alaykoum, ils ne m'ont pas répondu. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'ils ont dû entendre de moi? Qu'est-ce qu'on leur a dit de moi? Qu'est-ce qu'ils m'ont vu en train de faire? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Et les waswas et le shaitan, tu ne vas pas dormir la nuit pour quelqu'un qui est très sensible. Et donc le contraire est vrai quand tu dis à quelqu'un salam alaykoum. Pourquoi? Dans le din, tu dois lui répondre, ou alors il est conseillé d'ajouter, par exemple, tu lui dis wa alaykoum salam wa rahmatullah, tu ajoutes rahmatullah, et dit subhanallah al-azim, cette personne m'a donné ce que j'ai dit et plus, elle a ajouté wa rahmatullah, subhanallah, donc elle me fait du bien cette personne. Et tu dis salam wa alaykoum rahmatullah, il te dit wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh, j'ajoute wa barakatuh pour encore lui montrer que je lui veux du bien. Naam. Et en même temps, c'est moi qui me veut du bien, car en ajoutant wa barakatuh, j'ai encore 10 autres récompenses. Naam. Maintenant, il te dit salam wa alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Tu lui dis wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh wa maghfiratuh. Wa maghfiratuh. Comme a dit Sheikh Al-Albani rahimahullah, il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu sur ça. Car certains ont dit il est revenu, il a dit on ne dit plus wa maghfiratuh. Cela n'est pas vrai. Remarquez avec moi une chose. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ici nous a montré comment nous aimer avec une chose très très facile, C'est quoi? Il n'a pas dit saluez-vous quand vous vous rencontrez. Il n'a pas dit cela. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit échangez fréquemment, fréquemment. Afshu salam, afshu. Ça veut dire il faut dire beaucoup salam alaykoum. Ce n'est pas une fois qu'on font beaucoup de gens. Beaucoup de gens, il se suffit à une fois. S'il rencontre une personne, une fois, il lui dit salam alaykoum. Ensuite, s'il la rencontre, après une demi-heure, il dit khlas, cette personne, je lui ai dit salam alaykoum. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça la sunna. La sunna, c'est comme a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, si quand tu es avec quelqu'un, na'am, vous êtes en train de marcher, et il y a un arbre qui va vous séparer, ou bien un caillou, c'est-à-dire un rocher, un roc, qui va vous séparer, ensuite, vous vous rencontrez une deuxième fois après avoir dépassé l'arbre, vous vous dites assalamu alaikum et l'autre te répond wa alaikum salam wa rahmatullah. Voilà la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Abshu salam, propagez-le, dites-le fréquemment. Tu rentres dans la cuisine, tu trouves ta mère, tu lui dis salamu alaikum. Ensuite tu vas à la salle de bain faire quelque chose, tu reviens, tu lui dis assalamu alaikum la deuxième fois dans la cuisine. Ensuite tu vas dans la chambre et tu dis va au salon ramener l'assiette, tu ramènes l'assiette, tu rentres, tu lui dis salamu alaikum dans la cuisine. La troisième fois en combien? En 3 minutes. Tu es allé au salle de bain, tu es revenu salam, à l'autre salam, assalam, où je te vois salamu alaikum. Ce n'est pas là je suis à la maison, j'ai dit à ma mère salamu alaikum, ça me suffit. Donc tu es avare, pardon, tu es avare, tu es égoïste. Tu ne veux pas les récompenses. Allah Ta'ala t'en donne pour chaque salam au moins 10. Pour salam alaikum 10. Pour salam alaikum rahmatullah 20. Salam alaikum rahmatullah barakatou 30. Et toi tu veux pas remplir ton compte bancaire. Tu veux le remplir seulement en euros. Tu veux pas le remplir le jour où il n'y aura ni euros ni dollars. Ni Deutsche Mark. Mais il y aura les récompenses et quoi? Et les péchés. C'est tout. Ce jour-là, tu regretteras de n'avoir pas dit beaucoup salam alaikum. Tu vas dire subhanallah, salam alaikum wa rahmatullah, 20 récompenses. Combien j'aurais pu prendre de récompenses si je voulais pendant la journée? C'est pour ça que certains des salaf, radiyallahu ta'ala anhum, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient s'asseoir spécialement devant la porte du souk. Comment on dit souk en français? Je crois que c'est le marché. Il va devant un marché, il reste devant la porte. Soit debout, soit assis. Le marché, toutes les secondes, il y a quelqu'un qui rentre et il y a quelqu'un qui sort. Et il commence. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Et il n'arrête pas. Assalamu alaikum à celui qui rentre et salam à celui qui sort. C'est il a dit, il pense que c'est l'endroit où il y a le plus de monde. Et où il peut propager le salam. Donc, imaginez. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quand tu marches dans la rue par exemple, ils sont deux frères, il y a quelqu'un qui passe au milieu, une troisième personne, ou là un arbre ou là, tu rencontres ton frère, tu lui dis assalamu alaikum. Et la même chose, la sœur est avec la sœur, elle marche dans la rue, il y a une voiture qui est passée entre elles, ou là un vélo, ou là un arbre, quand elles se rencontrent la deuxième fois, elles se disent assalamu alaikum et l'autre elle répond alaikum salam wa rahmatullah. Pourquoi tout ça? Pour, à chaque fois, l'islam t'apprend, à chaque fois que tu peux faire le bien, fais-le. À chaque fois que tu peux manifester à ton frère et à autrui, pour attirer son cœur, épancher son cœur, fais quelque chose. Ne serait-ce qu'en lui disant salamu alaikum. Il a dit, de par sa perspicacité et son jugement judicieux, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam savait que seul un esprit de fraternité sincère entre les croyants permet d'éradiquer de leur cœur la haine, l'hostilité, la rivalité et la duplicité. D'où la recommandation de l'échange des salutations en tant que moyen permettant l'instauration de l'affection et de la sincérité dans la relation entre les musulmans. Salam alaikum joue un très grand rôle pour ceux qui ne savent pas. Moi, quand je rentre dans un endroit où je trouve une personne assise dans un bureau, où je lui dis salam alaikum, il ne me répond pas, je me sens affligé. Je sens dans mon cœur, je lui dis subhanallah al-azim, il m'a pas donné d'importance, ou là, il a dû entendre quelque chose de moi, ou là, pourquoi qu'il fait cette chose. Non. Mais quand il me répond, wa alaykoum salam wa rahmatullah, avec un visage radieux, un sourire radieux, non, je sens, masha'Allah, que je suis des plus heureux. Je deviens des plus heureux. Non. Regardez, le messager d'Allah a dit que personne n'entrera au paradis tant qu'il n'a pas la foi. Et condition nécessaire pour la foi, l'amour d'autrui. S'il n'y a pas d'amour, tu n'aimes pas ton prochain, tu n'as pas la foi, donc tu ne vas pas au paradis. Et pour avoir, non, et pour aimer ton prochain, l'une des conditions, c'est le de lui dire et de dire fréquemment salam alaykoum. Tu dis pas salam alaykoum, il n'y a plus d'amour entre nous. Non. Tu passes devant moi, tu me dis pas salam alaykoum une fois, deux fois. Qu'est-ce que je vais avoir dans le cœur? Je vais dire, il y a des choses. Je vais m'enfler d'orgueil et je vais me retourner de l'autre côté. Tu passes ce côté, je fais semblant de ne pas te voir et je regarde de l'autre côté. Et là, l'autre fois que je vais te rencontrer, quand tu arrives devant moi, je vais cracher. Je vais cracher dans la, comme ça, entre mes jambes. Tout, comme ça. Naam. Voilà le shaitan qui est rentré. Tout ça à cause de quoi? À cause de y a pas salam alaykoum. Si tu m'avais dit salam alaykoum, on ne serait pas arrivé ici. Il a dit, en effet, Ibrahim a réussi à former la première génération de croyants qui fut à la base de l'instauration de l'islam et qui devint le guide qui va et qui a éclairé la voie à l'humanité tout entière. Wallahi al-Ali al-Azim. Si ce n'était pas les Sahaba, jamais l'islam ne nous serait arrivé. Et si le messager d'Allah n'avait pas appris aux Sahaba, aux compagnons, l'amour entre eux, jamais aussi, l'islam ne serait arrivé car ils ne seraient jamais aimés, ils seraient entretués. Mais il aura appris quoi? Qu'il fallait d'abord s'aimer. Quand on s'aime, on peut faire des choses et bâtir une nation. Si on ne s'aime pas, on se déteste, au lieu qu'on bâtisse la nation, on va s'entretuer. Je vais passer la nuit à chercher quels sont les meilleurs emplois, les meilleures ruses pour te faire tomber dans un puits. Et pour te faire tomber en prison. Et pour, si c'est possible, comment t'assassiner. Parce qu'on ne s'aime pas. Il a dit, de par l'amour pur et sincère que les compagnons témoignaient les uns aux autres, ils ont constitué une communauté phénoménale par sa solidarité, une communauté qui, par son comportement exemplaire et ses sacrifices, est parvenue à diffuser l'islam partout dans le monde. Si cela s'est réalisé, c'est parce que, comme j'ai dit, ils se sont conformés aux propos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ces propos qui décrivent la communauté des croyants, la communauté des croyants, en disant, écoutez ce qu'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, écoutez ce hadith, écoutez, qui montre le comportement des croyants, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le croyant est pour le croyant, le croyant est pour le croyant, comme des parties d'un édifice qui se soutiennent les unes les autres. Hadith rapporté par Bukhari. Musulmans. Le croyant est pour l'autre croyant les unes les autres. Imaginez une maison qui repose sur quatre piliers. Naam. Tu enlèves un des piliers, la maison s'écroule. Quatre piliers, imagine ces quatre, c'est comme ça que sont les croyants. Si un des piliers tombe, tous les trois vont tomber. La même chose, les croyants se soutiennent les uns par les autres, les uns par les autres. De même qu'il a dit, alayhi salatu salam, dans un hadith authentique, écoutez ce hadith que tout le monde connaît, le messager d'Allah a dit, dans leur affection, leur tendresse et leur compassion les uns envers les autres, les croyants ressemblent à un seul corps. Lorsque l'un de ses membres souffre, les autres parties du corps s'interpellent les uns les autres, les unes les autres, pour partager mutuellement insomnie et fièvre. rapporté par Bukhari et Muslim. Allahu Akbar, Subhanallah al-Azim. Un hadith pareil. Qui peut dire un hadith pareil si ce n'est un messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Vous voyez la métaphore et l'exemple qu'il vient de donner sallallahu alayhi wa sallam? Écoutez, je le répète, dans leur affection, qui ça leur, les croyants, ils sont affectueux les uns envers les autres, dans leur affection, non, leur tendresse et leur compassion les uns envers les autres, les croyants ressemblent à un seul corps. Lorsque l'un de ses membres souffre, les autres parties du corps s'interpellent les unes les autres pour partager mutuellement insomnie et fièvre. Il est impossible que on puisse s'aimer et tu sais que ton frère Fidlah Azza wa Jal, par exemple, a beaucoup de problèmes et a besoin d'argent et toi tu es en train de jouer avec des millions et tu peux pas l'aider. C'est impossible que tu sois sincère dans ton amour et que tu dises moi j'aime ce frère. C'est pas vrai. Tu as des millions d'argent dans la banque. Tu n'en as même pas besoin pour l'instant. Ils sont là, entassés. Non, tu ne sais pas si tu vas t'en user, t'en servir ou bien mourir. Non, avant de les toucher. Et ton frère est là-bas, ta soeur, risque d'être expulsée de la maison. Risque de se trouver dans la rue. Risque de se trouver en prison et a besoin d'aide. Et tu ne peux pas donner un euro, fissabillah. Tu ne peux pas donner un euro, fissabillah. Non, pourquoi? Parce que ta foi est très faible. Parce que tu ne connais pas le verset qui dit, non, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Allah Ta'ala dit, et tout ce que vous donnez, fissabillah, c'est moi qui le rend. C'est pas une autre personne, c'est pas une personne qui le rend. C'est moi, Allah Ta'ala. C'est lui qui dit, il dit, c'est moi qui le rend. Tout ce que vous donnez en ma cause, c'est moi qui le rends. Et Allah Ta'ala dit dans le hadith Qudsi, hadith authentique, Abdi, anfiq, unfiq alik, ô mon serviteur, fais l'aumône, je fais l'aumône pour toi. Fais l'aumône, je fais l'aumône pour toi. Al-Muhim. La femme musulmane ne fut pas exclue de cet édifice monumental. Bien au contraire. Et depuis le premier jour, depuis les premiers jours de l'islam, jusqu'à nos jours, elle ne cesse de participer à l'édification de cette communauté solidaire. En consolidant les biens de fraternité avec ses frères dans la religion, et ses sœurs dans la religion, et en diffusant l'amour pour Allah, elle participe, comme elle l'a toujours fait, à la construction d'une société dont les membres sont attachés les uns aux autres par la foi en Allah, qui est le lien le plus sacré et le plus solide. Voilà, inshallah ta'ala, ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Il reste beaucoup à dire, inshallah ta'ala, mais on arrête ici. On va passer, inshallah, aux questions. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilik. Vous préparez, inshallah ta'ala, la première question et on commence, inshallah ta'ala, dans une ou deux minutes. Je vous donne le micro, tafadhal.
Salam alaikum, il y a du son. Alhamdulillah. Juste pour vous rappeler, le temps que le chéri se prépare, de préparer vos questions à l'avance. Barakallahu fikoum, pour pas qu'on perde de temps. Cher, si vous m'entendez, Inch'Allah, vous me tapez numéro 1 dès que vous êtes prêt pour que je puisse commencer à lire les questions. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Un frère demande par rapport à la prière s'il peut prier l'Isha une heure avant son temps. Puis s'il peut prier le Maghreb une heure avant son temps. Parce qu'il doit se lever à 4 heures du matin pour aller travailler. Barakallahu fikum, qu'Allah vous accorde le Firdaus. Amin. La question, chère, au fait, c'est une personne qui demande si elle peut prier la prière du Maghreb une heure avant son heure. Donc elle demande si elle peut prier la prière du Maghreb une heure avant son heure. Parce que la cause, c'est parce qu'elle doit se lever à 4 heures du matin pour aller travailler.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Qui saute le ghouraba? Alhamdulillah. Je vous ai dit une fois, si vous vous rappelez, que l'essentiel ce n'est pas la montre. Non. Mais. Tfadla, j'ai dit, je me suis trompé. Tfadla, donc corrige la question. C'est quoi, tfadla? Nourkayem, corrige donc. C'est quoi la question?
Vous m'entendez? Donc, Chir, la question, c'est. Est-ce qu'après avoir prié le Maghreb, la personne peut attendre une heure et ensuite prier l'Acha? Est-ce qu'elle peut prier la prière de l'Acha une heure après le Maghreb? Naam. Afwan, je me suis trompé.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Une personne, naam, pour savoir si elle peut prier l'Acha ou pas, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas une question de montre, mais c'est une question de est-ce qu'il fait noir dehors ou pas? Si dehors, à l'horizon, tout est obscur, il ne reste rien, naam, de la couleur rougeâtre du soleil. Vous savez, le soleil, quand il se couche, l'horizon commence à devenir rouge, ensuite rouge foncé, ensuite ça commence à noircir, naam, ensuite ça devient noir. Dès que ça devient noir, c'est Salat al-Isha. Dès que tu vois que tout est noir dehors, c'est Salat al-Isha. Voilà la réponse. C'est pas une question de une heure après ou une demi-heure après. Je ne sais pas si une heure après c'est noir chez vous, c'est obscur, ou bien il y a toujours la rougeur de l'horizon. Voilà, tfadla, inshallah, le suivant.
Minajul Haq, docteur, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, yashir, ahiyakum Allah. J'ai deux questions, shir. Une pour une amie. Elle n'a plus le Paul Talk qui est sur le sujet du cours de ce soir et une autre pour moi sur la prière. Est-ce que vous me permettez? Barakallahu fikum. La sœur demande. Elle fréquentait une sœur depuis 7 ans, mashallah, mais malheureusement, elle a eu beaucoup de problèmes et de fitaines avec cette sœur. Elle ne s'entendent pas. Elle a essayé de faire beaucoup d'efforts, mais visiblement, leurs deux comportements ne s'accordent pas. Allahu musta'an. Après mûre réflexion, mon ami a décidé de ne plus fréquenter cette sœur pour se préserver. Car à chaque fois qu'elle renoue, il y a une fitna qui vient. Donc elle voudrait savoir quel comportement adopter avec cette sœur. Par exemple, si celle-ci l'invite chez elle, d'autant plus que leurs deux maris sont amis et très proches, mashallah. Quel conseil pouvez-vous donner à mon ami Shir? Barakallahu fikum. Puis-je enregistrer votre réponse, Shir? Barakallahu fikum.
Tayyib, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Tayyib, ce que ma sœur doit savoir ici, c'est deux choses. C'est-à-dire nous tous en général et la sœur en particulier. Qu'il y a un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami', où le messager d'Allah a dit, quand deux personnes, yani deux musulmans, se dispersent, ou la disant se quittent, ils ne se parlent plus, il y a un verbe comme ça, je ne connais pas en français, c'est que l'un des deux a commis un péché. Naam. Regardez bien ce hadith. Moi, je suis avec, naam, mon frère, fillah, masha'Allah, ensuite, on ne se parle plus. Subhanallah al-Azim, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé sûrement que l'un de nous a dévié. L'un de nous a dévié. C'est pour ça que Allah Ta'ala, naam, a frappé nos cœurs et on n'est plus d'accord. C'est premièrement. Deuxièmement, je voudrais dire à ma sœur ici qu'il y a un hadith authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, très connu, authentique et très connu, qui dit que le musulman qui côtoie les gens et patiente avec eux est mieux que celui qui ne les côtoie pas et ne patiente pas avec eux. Et il a dit et dans les deux, il y a le khair, inshallah. Il y a le khair, inshallah. Donc je dis à ça à ma soeur, si, quand je sais que je, en fréquentant une personne, vous m'entendez? Quand je sais qu'en fréquentant une personne, ça va être à mon détriment. Je vais faiblir avec cette personne, on ne s'entend plus, c'est des problèmes, etc. Je ne suis pas obligé de faire d'elle une amie intime. Car les amis, quand on a des amis, elles ne sont pas toutes et tous au même degré. On a les intimes, on a les amis seulement, on a les moyennes, on a les seulement salam alaikum, mais comme ça. Donc je dis à cette sœur, elle n'est pas obligée de la prendre comme amie intime, mais seulement elle ne fait pas d'adversité avec elle, elle ne la rend pas un ennemi, elle la garde toujours comme amie, mais ça ne fait rien si c'est de loin. Et si elle est, et si elle l'invite, est-elle obligée de s'y rendre? Naam, le hadith est clair, il dit que quand on nous invite, on doit y aller. Mais bien sûr, quand on doit y aller, il y a des conditions. Et c'est pas la personne qui va commencer à faire la médisance, etc. Car ça rentre dans le haram. Naam. Mais si elle m'invite, naam, si elle apprend une chose, pour ceux qui ne savent pas, le hadith se trouve dans, ça risque de faire des fitnas entre elles. Naam. C'est pour ça que je dis à cette sœur, si elle ne veut pas y aller, elle lui demande seulement la permission. Comme a dit Abdullah ibn Abbas dans Sahih al-Bukhari. Vous trouvez ça dans Fath al-Bari, ceux qui ont Fath al-Bari. Naam. C'est-à-dire qu'il est permis en islam, quand quelqu'un nous invite, de s'excuser. Naam. Tu t'excuses et tu dis Jazakallahu khayran, peux-tu m'excuser ce jour-là? J'ai telle et telle chose à faire, sans mentir. Naam. J'ai telle chose à faire. Ou bien tu dis par exemple j'ai à faire, ou bien j'ai des choses à faire. Et, inshallah, sans mentir. Car même si tu vas lire le Coran, tu as des choses à faire. Non. Tu penses comme ça à des choses et tu lui dis, elle te dira oui, il n'y a pas de problème, etc. Et là, inshallah ta'ala, tu as gagné le fait de ne pas avoir désobéi, le fait de n'avoir pas pris cette sœur comme adversaire. Naam, elle doit l'appeler. Naam, elle lui téléphone. Elle lui dit, à propos, c'est au sujet de l'invitation, ce jour-là, inshallah ta'ala, est-ce que tu peux m'excuser? Naam, je ne peux pas venir. Et elle se dit dans son cœur, je ne peux pas venir, à cause que si je viens, il y a des fitnas. Elle lui dit pas ça, mais dans son cœur. Elle dit, je ne vais pas y aller à cause des fitnas, elle va en perdre des fitnas. Naam. Naam, elle prend ses nouvelles, comment vas-tu, Kada, ma soeur, Naam, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ceci, cela. Ensuite, elle lui dit, voilà, pour ceci, cela, tu m'excuses, inshallah ta'ala. نعم والله تعالى أعلم أتفضل إن شاء الله للبروشان.
On attend la deuxième question inshallah Minajul Haq. Ma question est la suivante. J'ai prié derrière mon mari et au moment du dernier tashahhud, lorsque j'ai fini, j'ai salué à droite et je me suis rappelé tout de suite que je priais avec mon mari. Et j'ai attendu qu'il salue et j'ai salué après lui. Alors je voudrais savoir, puisque j'ai devancé le guide dans la salutation, est-ce que cette prière est valable? Barakallahu fikum yashir.
Naam, wa alaykum salam wa rahmatullah. Vous m'entendez, Minajul Haq? Alhamdulillah. La personne qui a salué, elle s'est oubliée, elle a salué avant son mari. Naam, elle est excusée. Pourquoi? Parce qu'elle l'a pas fait exprès. Donc en saluant, dès qu'elle se rappelle, elle revient vers sa position. Elle revient, c'est comme si elle n'a pas salué. Et elle attend que son mari salue. Ensuite, elle salue aussi. Et après avoir terminé la salat, elle fait deux prosternations pour avoir salué avant lui. Naam. Mais si la personne veut saluer comme ça exprès, elle dit non, je salue avant lui, celle-là bien sûr, sa prière n'est pas valable, mais je pense pas que Je ne pense pas que celui qui pose la question ici, je ne pense pas qu'il puisse le faire exprès. Je n'ai pas fait les deux sujouds. Na'am. Certains ulamas disent que même jusqu'à présent, tu peux les faire. Na'am, minajul haq. Certains disent que même maintenant, na'am, en arrêtant le dos, tu peux les faire. Certains disent comme ça. Et certains disent, là, c'est passé, c'est passé. Pour la prochaine fois, inshallah ta'ala, si ça se passe comme ça, tu fais les deux sujouds. Na'am. Tfadla, inshallah, le prochain.
Donc la question de Mouahiddin, je l'ai reçue en PV. Salam alaikum wa rahmatullah. Je souhaiterais savoir si nous avons le droit d'apprendre le Coran sans les règles de Tajwid. C'est-à-dire, est-il permis d'apprendre en suivant un récitateur sans connaître les règles? Avons-nous un péché si nous récitons le Coran sans appliquer la règle? Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense. Amin.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. L'essentiel, naam, ce n'est pas surtout les règles, mais l'essentiel, c'est de l'apprendre juste, c'est-à-dire question de prononciation. Si c'est par exemple Alhamdulillah, il ne dit pas par exemple Alhamdalillah, il ne dit pas aux règles, elles ne sont, comment dirais-je, elles ne sont obligatoires que pour ceux qui ont les moyens. Et pas tout le monde peut apprendre les règles. L'idram ou l'ghunna ou l'ikhfa. Pas tout le monde peut connaître cela. Surtout les francophones et les anglophones, c'est très difficile pour eux. Donc c'est permis d'apprendre le Coran et vous aurez des récompenses même si vous n'apprenez pas les règles tant que pour vous c'est difficile d'apprendre des règles. Celui-là, c'est déconseillé pour lui. Il faut qu'il apprenne avec les règles. Mais, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Tu peux apprendre le Coran sans les règles parce qu'ils sont justes. Apprendre la prononciation. C'est tout. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadla, inshallah, le suivant.
El-Iman sunnite, à votre tour, inshallah. Salam alaikum, ahyakum Allah shir. Inch'Allah, je pose la question pour une sœur. Pouvons-nous sortir les enfants pour qu'ils s'amusent en sachant que l'on vit dans un pays de mécréants et qu'il y a beaucoup de fitna? Jazakum Allah khairan.
Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, si les enfants se plaisent quand ils sont à l'extérieur et qu'ils ont besoin de respirer et qu'ils aiment jouer, surtout l'enfant qui quand il a atteint un certain âge où il veut jouer et grimper sur les arbres et courir et faire des cabrioles, on doit le faire sortir si on est sûr que nous on va pas tomber dans les fitnas. Si on sait qu'il y a un jardin par exemple où on peut être comme ça à l'écart et qu'il n'y a pas de problème et je connais ma foi, je sais que mashallah, yani je suis assez sérieux et que je regarde pas les femmes, ou là, si je suis une femme je regarde pas les hommes et que je suis pas le genre yani je suis le genre sérieux etc, je peux faire sortir mes enfants tant que je suis dans ce pays jusqu'à ce que Allah Ta'ala me fasse la hijra, m'aide pour faire la hijra. Mais si je sais qu'en sortant, si je suis une femme, il y a les gens qui vont m'embêter, il y a les gens qui vont plaisanter avec moi, il y a les gens qui vont je sais pas quoi, dans ce cas, je ne dis pas il ne faut pas sortir, mais je dis seulement il faut changer d'endroit. Je vais dans un endroit où il y a le respect et où personne ne me fait des problèmes. Mais les enfants, il faut qu'ils courent et qu'ils jouent et qu'ils font les cabrioles. Atfadval, cher.
Abu Ahmed, à votre tour, Inch'Allah. Vous avez du son? J'envoie ça en PV, Afi, ça passe pas. Si tu souhaites prendre le micro, Abu Ahmed, il n'y a pas de souci. Hein. Tu peux prendre le micro, comme tu veux. Donc, sinon, tu me l'envoies en PV. Prends le micro, Inch'Allah, Abu Ahmed. Il m'a envoyé sa question en PV, inshallah, je vais la lire. Assalamu alaikum, quel conseil pouvez-vous donner à une sœur convertie qui fait pleurer sa mère non musulmane par ses mauvaises paroles et en criant sur elle, en menaçant de rompre le lien de parenté et en lui ordonnant de faire ceci et cela? De plus, cette sœur fréquente un jeune homme qui lui aussi est musulman converti, alors qu'ils ne sont pas mariés. Ils se voient, parlent ensemble et se rendent à des repas dans la famille de ce frère converti. Elle dit que de toute manière, ils ont l'intention de se marier, alors que cela dure depuis, j'attends la suite de la question, Abou Ahmed, alors que cela dure depuis, alors que cela dure depuis plusieurs années. Jazakumullah khairan. Non, mais j'enregistre pour qu'on lui transmette.
في صوت. عليكم السلام ورحمة الله أبو أحمد. أبو أحمد أسكو سي توا لو فرار دو أوتون كومون كي سابيل هذاك لو سيت هذاك جي أوبليي أهل الحديث سي توا لو فرار دو سيت أهل الحديث حياك الله أون فاتو أبو أحمد tu veux pas nous faire entendre ta voix. نعم moi j'aime t'entendre parler, toi tu veux pas nous faire entendre ta voix. Abou Ahmed est démasqué aujourd'hui, mais non, mais il veut pas nous faire entendre sa voix. Peut-être il dit la voix de l'homme Aoura, je sais pas. Donc je réponds inchallah ta'ala à cette personne en disant, je dis à cette reconvertie, n'am, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, le tout puissant, le majestueux Azza wa Jal. Naam. Car l'islam interdit, même s'ils sont quoi, s'ils sont des mécréants, même s'ils sont des mécréants. Le hadith est dans Sahih al-Bukhari où la mère de Asma, la mère de Asma, c'est-à-dire Asma c'est qui? Asma la fille de Abu Bakr. Naam. Sa mère qui était mécréante, naam, est venue lui rendre visite car elle voulait de l'argent. Alors elle a demandé au messager d'Allah, ma mère est venue mécréante me rendre visite, comment je fais avec elle? Est-ce que je romps avec elle? Il lui a dit non. Naam. Maintiens tes relations. Naam. Donne-lui ce qu'elle veut. Quelque chose comme ça. Donc il est interdit en islam, même si nos parents sont des mécréants, de leur faire du tort ou de leur faire du mal. Sauf si c'est quoi? Sauf si c'est en islam. Naam. Ils veulent, yani, ils veulent de force me faire sortir de l'islam. Ils veulent de force me faire entrer dans le christianisme, me rendre mécréant. Ça, je ne leur obéis pas. Je ne leur obéis pas. Mais il est interdit en islam de insulter ses parents s'ils sont mécréants, ou bien les frapper, ou bien leur dire, yani, telle chose et telle chose qui fait mal au cœur. Ça, c'est pour le premièrement. Et deuxièmement, elle est en train de donner, sans le vouloir, une mauvaise image de l'islam. Maintenant, ses parents vont dire, quand ils vont se parler entre eux, ils vont dire, regarde notre fille, comment qu'elle est devenue en entrant en islam. Car c'est l'islam qui lui dit cela. Naam, regarde comment qu'elle est devenue, comment qu'elle s'est transformée en appliquant l'islam. Ils vont croire que c'est ça l'islam. Alors que l'islam, c'est tout à fait le contraire du comportement de cette sœur. Et troisièmement, je lui dis de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de couper tout lien avec ce frère. Et je demande à ce frère qui la fréquente de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de couper tout lien avec elle. Il n'a pas le droit d'avoir des rapports avec elle. Je dis des rapports, c'est-à-dire des rapports en s'écrivant, en se parlant. Ça s'appelle un rapport aussi. Il n'a le droit d'avoir aucune relation avec elle jusqu'à après avoir demandé sa main d'une façon officielle et on lui donne la fille. Mais maintenant c'est une étrangère, tout juste s'ils se disent salam alaikum dans la rue. Naam. Mais se rencontrer, se parler et aller manger ensemble Et cela depuis des années, ils sont dans les péchés, l'âme, et s'ils meurent comme ça, si Allah Ta'ala ne leur pardonne pas, c'est vraiment grave ce qu'ils sont en train de faire. Je demande à Allah Ta'ala qu'ils agrandissent leur foi et raffermissent leur cœur et qu'ils les aident à s'éloigner de ces péchés. Allah Ta'ala l'afiya. Tfadlan, inshallah Ta'ala, le prochain.
Ryan A8, à votre tour, Inch'Allah. Assalamu alaikum, Cher. J'aurais aimé savoir où se limite la aura entre femmes. Entre parenthèses, explication, la limite pour les jambes et les bras, le décolleté, etc. Barakallahu fikoum.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. La question est terminée, Rayana. Parce que je croyais qu'après avoir dit exemple, elle allait dire exemple ceci et cela. Avant de répondre à sa question, je voudrais dire une chose comme ça, Inch'Allah Ta'ala, je ne l'oublierai pas. Allez, je réponds à sa question, ensuite je dis la chose. Tayyib, en ce qui concerne la aura entre les femmes, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais ça ne fait rien. Il y a toujours des gens qui sont nouveaux et nouvelles, mais qui ne savent pas la chose. Regardez, c'est comme, yani, c'est comme si une femme allait faire les ablutions, par exemple, qu'est-ce qu'elle va montrer quand elle va faire les ablutions? Elle va montrer le visage. Elle va montrer des cheveux parce qu'elle va mettre, elle va essuyer ses cheveux. Elle va montrer les bras jusqu'au coude. Elle va montrer les jambes jusqu'aux chevilles. Ce sont ces choses seulement qu'une femme peut montrer à une femme. En ajoutant deux autres choses, lesquelles, en ce qui concerne les jambes et les bras, elle peut monter. Elle peut montrer, elle peut monter et montrer, en ce qui concerne les bras, un peu plus haut que le coude. C'est-à-dire entre la moitié qu'il y a entre le coude et l'épaule. Elle peut monter ses bras jusqu'à la moitié. C'est-à-dire si elle met un demi-manche qui arrive jusqu'au milieu des bras, elle peut. Naam. Et en ce qui concerne les jambes, elle peut montrer ses jambes jusqu'à quoi? Jusqu'à la moitié du tibia. Parce que, et aussi, elle, en ce qui concerne le visage, elle peut montrer son cou et elle fait descendre un peu jusqu'à l'ouverture de la poitrine, l'ouverture. Car ce sont les endroits, ça s'appelle la parure, où elle met la parure. Non, elle peut mettre la parure sur ses cheveux. Elle peut mettre la parure sur le cou, un peu sur la poitrine. Elle peut mettre la parure sur les avant-bras, des cerceaux comme ça, etc. Elle peut mettre, comme autrefois, on mettait nos grands-mères, etc., mettaient des cerceaux en or et en argent dans les pieds jusqu'à la moitié du tibia. C'est seulement ces parties qu'une femme peut montrer à une autre femme. Et c'est pourquoi il est interdit à une femme de se mettre en dos nu devant une autre femme. Il est interdit à une femme de montrer son nombril, par exemple, à une autre femme. Naam. Il est interdit à une autre femme de lui montrer son dos, de lui montrer sa poitrine, de lui montrer ses cuisses à une autre femme. Et ce n'est pas comme croient certaines, elles disent c'est une femme. Une femme avec une femme, c'est interdit aussi. Naam. Ces choses-là ne les voit que le mari. Sinon, c'est interdit. Naam. Voilà la aura de la femme avec la femme. C'est-à-dire quoi? Je répète, elle lui montre ce qu'elle montre dans les wudu, quand elle fait les ablutions. En ajoutant qu'elle peut monter pour les pieds jusqu'aux moitiés du tibia. Et pour les mains, elle dépasse le coude et elle monte jusqu'à la moitié. Naam. Et pour le cou, elle peut montrer son cou. Et elle descend un peu jusqu'à l'ouverture de la poitrine. Est-ce que Est-ce que Ryan Awit a compris? Est-ce que Ryan Awit a compris? Alhamdulillah. Je voulais dire une chose qui n'a pas, qui n'a rien à voir avec le DAS, qui est question-réponse. C'est que aujourd'hui, en rentrant dans le Paltok, j'ai vu que mon nom, ou là mon pseudo, Naam, était devenu vert. Après qu'il était bleu. Et, yani, ça m'a étonné. Et je me suis dit, comment ça s'est passé qu'il soit devenu vert? Naam. Et j'ai pensé à deux personnes. Naam, j'ai dit, sûrement l'une de ces deux personnes a fait cette chose. Et quand j'ai demandé aux deux personnes, les deux personnes m'ont dit non, ce n'est pas nous qui avons fait cela. Donc, d'un côté, je dis que ça tombe bien. Parce que tout le monde sait, bi'idhnillah ta'ala, qu'à la fin du mois, je vais quitter naam, le Koweït définitivement. Et que je serai, inshallah ta'ala, en Algérie. Et là-bas, il n'y a pas où payer pour teinter le pseudo, pour qu'il soit bleu ou bien pour qu'il soit vert. Et le mien, juillet, août, septembre. Et pour le mien, il restait 2 mois et demi à peu près pour qu'il se termine. Donc je commençais à me questionner comment faire, inshallah ta'ala, pour le reteinter de nouveau. Et maintenant, je vois qu'il a été reteint, sûrement par une personne qui, je pense, inshallah ta'ala, a fait cela pour le visage d'Allah Azza wa Jal. Et pour que la da'wa continue, je demande à Allah Ta'ala le Tout-Puissant qu'il bénisse l'argent de cette personne et qu'il lui ouvre une porte de bien. Comme elle a fait ce bien, Allah Ta'ala lui ouvre une porte de bien. Et si après la personne voudrait se faire connaître, pour qu'elle me dise qui, pour que yani, je la remercie personnellement, qu'elle le fasse. Si elle veut garder ça entre elle et Allah, c'est une autre chose. Naam. Ah, d'accord. Maintenant, ça m'a fait rappeler aussi autre chose. Est-ce que vous m'entendez, Ibnul Qayyim ou la Ta'amla? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. La deuxième chose que ça m'a fait rappeler, Alhamdulillah, c'est enregistré comme ça, les autres aussi vont l'entendre. C'est que vous savez, ces temps-ci, il y a beaucoup de rumeurs qui marchent, des rumeurs et des choses qui ne sont pas vraies. Non, quand ces rumeurs et ces choses qui ne sont pas vraies viennent des adversaires, des habash, des takfir, des ceci, cela, non, ça me rentre par une oreille et ça sort de l'autre. Pourquoi? Je sais que j'ai des ennemis, comme tous les messagers avaient des ennemis, c'est vrai que je dois patienter, que j'ai des récompenses, alhamdulillah. Mais quand ça vient des selfs, ou là, qui se disent selfs, ou là, ça devient naam, autre chose, ça change. Et ce que j'ai entendu ces temps-ci, naam, qui m'est parvenu à l'oreille, naam, c'est que certains en France ont dit, d'ailleurs c'est pas étonnant, peut-être ça vient des Habesh et ça s'est propagé, je sais pas. Ils ont dit que Cheikh naam, va quitter le Koweït naam, ce mois, parce qu'il a été expulsé du Koweït. Le Cheikh a été expulsé du Koweït. Donc il va rentrer en Algérie, yani expulsé. Allah ghalib, khalas. Et moi, qu'est-ce que je dis à ceux-là? Je leur dis, hein, avant de dire une chose, craignez Allah Azza wa Jal. Craignez Allah Azza wa Jal avant de dire une chose. Naam, c'est moi-même. Naam, c'est moi-même. Naam, de ma propre volonté. Après avoir fait plusieurs fois salat istikhara, c'est moi qui ai décidé de quitter définitivement le Koweït. Mieux encore, pour vous rassurer, vous, inshallah ta'ala, qui m'aimez, pour vous rassurer, naam, ici, quand je veux faire la démission, je la fais en cachette des responsables. Car les responsables n'aiment pas que je quitte le Koweït. Les responsables chez lesquels je travaille dans le ministère des Affaires étrangères, quand je leur ai dit une fois, je voulais faire la démission, ils n'ont pas accepté. Non, Yachir, il ne faut pas partir, il faut rester, il faut ceci, il faut cela. Donc je ne l'ai pas faite, ça fait longtemps, et j'ai attendu cette fois, quand ils ont oublié les responsables, ils ont oublié, je l'ai faite. J'ai déposé ma démission, et cela fait pas longtemps, peut-être 20 jours, Quand j'étais là-bas dans les bureaux des responsables, et le responsable qui ne savait pas que j'ai fait ma démission, ne savait même pas, quand il m'a vu, je marchais comme ça dans le dos. Je témoigne que Cheikh Malik l'a posé. Le responsable, quand il m'a vu de dos, il m'a dit Cheikh Mohamed, il m'appelle comme ça, Cheikh Mohamed. Il m'a dit Cheikh Mohamed, quand tu termines, yani, viens dans mon bureau, j'ai besoin de toi. Quand je suis rentré dans son bureau, il m'a dit, voilà, Cheikh, on t'a choisi parmi les quatre ici, au Koweït, pour représenter notre département dans comment ça s'appelle ça, Moussabaqa, dans un concours. Il y a un concours ici, un grand concours islamique. On t'a choisi parmi les quatre ici pour nous représenter. Je lui ai dit, Cheikh, attends, je vais t'annoncer une chose. Je viens, il y a quelques jours, de déposer ma démission. Allahu Akbar. Il y avait quatre ou cinq assis devant lui. Il leur a dit, écoutez, Allahu Akbar, écoutez. Cheikh Mohamed a déposé la démission. Ils ont tous commencé, Yachir, faut pas partir, Yachir, ceci. J'ai dit, là, jazakumullahu khayran, barakallahu fikum. Mais j'ai décidé, je dois partir, inshallah. Donc, soyez rassurés que si je veux rester au Koweït, je suis ici comme un prince. Un roi, bi'idhna ta'ala, un prince, on me supplie pour que je donne des doros, dans le ministère, et des doros encore payés, si je veux rester ici, je suis comme un prince, mais j'ai décidé, inshallah ta'ala, de partir, j'ai mes raisons personnelles, je suis âgé, je suis malade, et j'ai envie d'être devant ma femme et mes enfants, ma mère, mon père et mes frères et sœurs. Allah Ta'ala m'aide. Faites-moi des doux, inshallah. Tfadla, inshallah, la prochaine question.
Salam alaikum. Il y a du son? Abdallah 06 m'avant, j'ai une chose à dire à Shir par rapport à ce qu'on m'a dit en PV. Par rapport au pseudo vert, on me dit que même chez les administrateurs du salon Salafi de Rose Life, qui avaient des pseudos en bleu, et ben qu'ils étaient devenus verts eux aussi. Donc il se peut que ce soit Paul Talk qui ait fait cela. Abdullah 06, j'attends vos autres questions. Salam alaikum, ahiyakallah. Dans mon entreprise, mon employeur met pour chacun des employés une somme d'argent en banque, provenant des bénéfices. L'argent est bloqué et fait du riba, l'intérêt. Dois-je prendre cet argent? Si oui, que dois-je faire du riba? Et sachez que je n'ai pas le choix de ce compte, c'est imposé dans la convention de l'entreprise. Si votre question est finie, tapez numéro 1. Barakallahu fikoum, Abdallah 06. D'ailleurs, je dis à tous celles qui ont des questions, quand votre question elle est finie, vous tapez numéro 1, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Question est finie.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah ya Abdullah 060 06000. 06000. Naam. Quand quelqu'un on lui impose de faire la riba en prenant une part de son argent en la mettant dans la banque, qu'est-ce qu'il fait alors puisque c'est imposé, c'est pas lui qui a voulu cela, il prend la riba. Chaque fois qu'on donne la riba, l'usure, il la prend et il la donne aux nécessiteux, en commençant par sa famille. S'il a dans la famille des nécessiteux, il leur donne cet argent sans leur dire c'est la riba. Si tu leur dis c'est la riba, beaucoup de gens ne veulent pas prendre. C'est pas la peine de lui dire, car pour lui c'est halal. Et toi, alhamdoulilah, c'est une façon de t'en débarrasser. Tu n'as pas de hasanat, mais tu t'en débarrasses. Et c'est mieux, comme disent les savants, de lui laisser l'usure là-bas. C'est lui, le banquier, l'État, comment qu'on dit, ils vont employer cet argent dans le haram. Il vaut mieux que tu le prennes toi. Tu le donnes à qui? À des nécessiteux, même si tu n'as pas de récompense. Non, Allah yirhamou, dit c'est haram seulement pour celui qui a fait la riba. Je te dis mieux que cela, Abdullah 06000, je te dis mieux que cela. Si il y a quelqu'un qui veut aller au Hajj ou à la Umrah, Cheikh Ibn Uthaymeen dit, tu peux lui donner cet argent, c'est halal pour lui. Il peut faire la Umrah et la Hajj, lui. Mais c'est haram pour celui qui a fait, et non pas celui à qui on donne. Naam, il y a une grande différence entre les deux. Naam. Atfadla, Inch'Allah Ta'ala, le prochain.
Salam alaikum. J'aimerais apporter une précision, Inch'Allah, parce que souvent ça arrive. Les personnes qui m'envoient des PV pour me demander s'ils peuvent me poser des questions, sachez que moi je suis peut-être le plus ignorant de cette room. Je n'ai aucune science, c'est Shir qui répond aux questions. Donc voilà. Abou Bakar, 1429, c'est à votre retour, Inch'Allah. Shir, est-ce que Abou Bakar 1429, il peut prendre le micro? Tafaddal, Akhi.
Salam alaikum. Salam alaikum. Je voulais savoir, Cheikh, par rapport aux gens qui disent qu'on ne peut pas donner un Coran en langue arabe à des mécréants, car ils insistent sur le fait de l'état de pureté de ces personnes. Et je voulais connaître votre avis. Et je voulais aussi savoir, parce que je suis gaucher, pour le fait de donner à quelqu'un un objet de la main gauche, ou bien de prendre quelque chose par la main gauche. Certaines personnes me font ce reproche. Et pour manger, je suis conscient que on leur donne un Coran pour l'appel à Allah, pour la dawa, en français. Mais souvent, les Corans sont une page en arabe, une page en français. Et certaines personnes disent qu'il ne faut pas donner un Coran en langue arabe à des mécréants, en disant qu'ils n'ont pas les ablutions, qu'ils ne sont pas en état de pureté, ainsi et beaucoup de choses comme ça. Ou même en disant qu'ils peuvent faire de la shawada, de la sorcellerie avec ces versets coraniques et tout ça. Vous m'avez compris, Shir? Ensuite, par rapport au fait de... Comme je suis gaucher, par rapport au fait de donner quelque chose de la main gauche, ou de prendre quelque chose de la main gauche, je voulais connaître votre avis là-dessus. Barakallahu fik, cher.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Fi sawt. Naam, alhamdoulillah. En effet, on peut donner le Coran en français ou là dans une autre langue. Naam. Pourquoi? Parce que l'arabe et le vrai Coran, il n'y a qu'en arabe, c'est ça le Coran. Ce qui est en français, en anglais, en allemand, ce n'est pas le Coran, c'est la traduction, c'est tout. Car il n'y a qu'un seul Coran dans le monde, il est en arabe. Al-Muhim. Celui qui est en arabe, la yamsu illa al-mutahharun, ne peuvent le toucher que les musulmans. Naam. Qu'est-ce que ça veut dire le mutahharun ici? Il y a une grande divergence entre les savants. Naam. Beaucoup disent qu'ils doivent faire des petites ablutions, c'est ça le mutahharun. Et d'autres disent que mutahharun, c'est les croyants. Et un mécréant n'est pas mutahhar, car il a la souillure dans le cœur. Il a la souillure dans le cœur. Donc, si on prend de l'avis, du premier avis qui dit que les musulmans qui font les petites ablutions, donc les croyants, les mécréants ne peuvent pas le toucher. Alors, qu'en est-il maintenant? Naam. Alors, même en prenant du deuxième avis, qui dit que le mutahharun, ce sont des croyants seulement, même s'ils n'ont pas les ablutions, même dans ce cas, les kuffars ne peuvent pas toucher le Coran qui est en arabe. Naam. En ce qui concerne la gauche, il faut faire le maximum, pour ne pas manger avec la gauche. Car manger avec la gauche, c'est un péché, c'est interdit. Et donner avec la gauche et prendre avec la gauche, c'est seulement déconseillé. comme l'a montré Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou, n'am, il a montré la différence entre quoi? Entre manger et entre quoi? Et entre donner et prendre. Alors que ça se trouve dans le même hadith. N'am. Car en donnant et en prenant, n'am, on s'est fait ressembler au shaitan. Ce n'est pas bien de se faire ressembler au shaitan. Mais en mangeant, et en mangeant, tu fais manger le shaitan avec toi. Donc, tu fais manger qui? L'ennemi d'Allah. Et notre grand ennemi, tu le fais manger, donc tu le nourris. C'est comme si, hein, tu avais un shaitan à la maison, tu lui dis, attends, je vais te nourrir, je vais te faire manger le matin, le soir, et je te donne le yaourt, et je te donne le biberon. Ah là, c'est grave, parce que je suis en train de faire grossir mon ennemi contre moi, pour qu'il me dévore. C'est pour ça que tu dois bien faire attention pour éviter au maximum de manger avec la gauche. Mais donner et prendre, si c'est difficile, c'est plus ou moins grave. Quoique, donner et prendre, si tu peux aussi, tu ne donnes qu'avec la droite, tu ne prends qu'avec la droite. Mais c'est difficile, c'est moins grave que de manger avec la gauche. Wallahu azza wa jalla a'lam, tafadhal.
Mohamed, à votre tour, Inch'Allah. Si vos questions elles passent pas sur la room, envoyez-moi les en privé, Inch'Allah. En attendant que Mohamed prépare sa question, on passe à Noisette. Salam alaikum. Je voudrais savoir si c'est possible que ma mère me donne sa zakat, car j'aimerais avec m'acheter quelques livres sur le dîn. Et si oui, est-ce que je peux acheter ce que je veux avec cet argent, autre que les livres?
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Naam, la mère peut donner la zakat à son enfant. À condition que quoi? À condition que quoi? Qu'il rentre dans l'une des comment dirais-je? Des 8 sortes. Des 8 sortes. Comme quoi, par exemple, il est nécessiteux, ou bien va faire le hajj, ou bien endetté, et comme ça. Pourquoi j'ai demandé ici, est-ce que ton père travaille, etc. Parce que la mère, ce n'est pas elle qui nourrit son enfant, mais c'est le père qui travaille et doit nourrir son enfant. Donc le père n'a pas le droit de donner la zakat à son enfant, sauf s'il lui donne à cause des dettes, par exemple. Non. Mais même s'il est nécessiteux, il ne lui donne pas, car il doit le nourrir. Non. Mais la mère, ce n'est pas elle qui nourrit son enfant. C'est pas obligé pour elle. Que elle peut lui donner de sa zakat s'il est nécessiteux. Non, s'il est nécessiteux. Voilà.
J'ai la question de Oum Mohamed en PV, donc je vais la lire, Inch'Allah. Assalamu alaikum, Shir. Qu'Allah vous préserve, ma question porte sur le fait qu'à présent, il est possible de connaître le sexe de son bébé, Inch'Allah, avec une échographie vers la 20e semaine de grossesse. Allahu a'lam. Chercher, savoir si on porte une fille ou un garçon, fait-il partie du fait de devoir connaître l'invisible? Y a-t-il des comportements, des invocations, etc., sunna, conseillés à la femme pendant la grossesse pour avoir un enfant pieux, bien ancré dans le minhaj haq, avec l'aide d'Allah? Barakallahu wa ahsan alika, Cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Naam, je ne connais rien dans la sunna qui dise que quand elle est enceinte, elle doit dire telle ou telle chose, par exemple. Mais en général, la personne doit beaucoup faire de dua et d'invocation et d'implorer Allah Ta'ala le Tout-Puissant pendant les moments opportuns de lui donner un enfant pieux. Et si elle est sincère, Allah Azza wa Jal pourquoi ne va-t-il pas lui exaucer, puisqu'elle cherche quelque chose que Allah Ta'ala aime. Allah Ta'ala aime les pieux, aime ceux qui l'aiment, aime ceux qui apprennent le Coran, aime ceux qui veulent le paradis. Donc Allah Ta'ala, si elle est sincère, hein, et il veut, il lui donne un enfant pieux, bi'idna azzawajal. Quant à l'échographie, le fait de la faire, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas dans le fait de connaître l'avenir ou l'invisible. Car il est déjà garçon ou bien fille. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va seulement jeter un coup d'œil à l'intérieur du ventre pour voir c'est quoi son sexe. Et maintenant, Allah Ta'ala a donné des instruments, hein, aux hommes de science qui leur permettent de voir son sexe, c'est tout. Mais ce qui aurait été impossible, et ça serait rentré même dans la mécréole du sperme, de dire que c'est un garçon ou c'est une fille, par exemple. Non, ça rentrerait dans le haram. Mais maintenant, l'enfant déjà a été créé. Il suffit seulement de jeter un coup d'œil pour voir quel est son sexe. Mais il y a une chose très importante à dire ici, c'est quoi? C'est que il n'est pas conseillé. Il n'est pas conseillé, non, d'aller faire l'échographie pour voir quel est le sexe de ce garçon. Pour la bonne raison, vous savez laquelle? C'est quoi la raison? En allant voir le sexe de l'enfant, la femme est obligée de découvrir une partie de son corps. Naam. Et peut-être même devant un homme, surtout chez vous en France. Ce n'est pas sûr que c'est une femme qui va te faire l'échographie. C'est fort possible, et c'est plus sûr peut-être en France que c'est un homme qui va découvrir une partie de ton buste, subhanallah al-azim, pour voir, naam, alors que ça, c'est pas une chose obligatoire. Et même si c'était une femme, même si c'était une femme, un médecin, elle n'a pas le droit de voir à partir de ton nombril, etc., qui est une aura, qui est une aura. Est-ce que tu es dans la nécessité? Personne n'est dans la nécessité pour voir quel est le sexe de son enfant. Tu peux attendre jusqu'à ce que tu accouches et tu verras, inshallah ta'ala, ce que tu as. Si c'était une nécessité, ça aurait été permis qu'elle se fasse par une femme. Ou alors, peut-être même par un homme, si c'est quelque chose de grave. Mais ici, ce n'est même pas une nécessité. Que je sache si c'est un enfant, si c'est un garçon ou une fille, ce n'est pas une obligation. C'est pour ça que je n'ai pas le droit de me désigner. Si elle peut faire comment ça s'appelle, l'échographie, sauf si elle peut faire l'échographie, par exemple, sur mes vêtements, sans lui montrer mon corps. Si elle peut, hein, ce n'est pas grave, Inch'Allah. En France, c'est obligatoire. Troisième, cinquième mois et septième mois. Subhanallah al-Azim. Elle dit, c'est la première chose, c'est la première fois que j'entends cela. Quand c'est obligatoire, c'est autre chose. Moi, je parle quand ce n'est pas nécessaire. Tfadl, Inch'Allah, le prochain.
Abu Younes, à votre tour, Inch'Allah. Abu Younes. Assalamu alaikum, qu'Allah vous récompense, Cheikh, pour le temps que vous nous consacrez. Après l'accouchement, dans certains hôpitaux, le sang du cordon est prélevé pour prendre des cellules souches qui permettent de soigner des maladies comme la leucémie. Est-ce permis de faire du don du cordon?
Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pour répondre à cette question, je vais poser une question. Le cordon là, on le laisse à l'hôpital et on le jette si on ne donne pas? Ou bien est-ce qu'on le prend avec soi à la maison? Je le prends à la maison, est-ce qu'on le jette à l'hôpital? J'attends la réponse, Abou Younes. Si Abu Younes ne connaît pas la règle, ils le prennent quoi qu'il en soit. Voilà, ils le prennent quoi qu'il en soit. Alors toi, mets dans ton intention que tu l'as donné fi sabilillah. Naam, mets dans ton intention que tu l'as donné, naam, fi sabilillah, pour soigner les malades. Naam. Puisqu'ils le prennent, ils le prennent. Tfadl, inshallah. Cancer du sang, naam. Je conserve du sang, naam. Inch'Allah, celui qui donne fisabilillah, il a, inch'Allah ta'ala, des ajri, il a des récompenses. Fadl.
Waqti Sonia, à votre tour, inch'Allah. Le raid ne vous avait pas été retiré, donc vous pouvez poser votre question maintenant si elle n'est pas apparue. Tapez numéro 1, Inch'Allah, quand votre question est finie. Salam alaikum, Shir. Une femme doit-elle répondre au salam d'un homme inconnu dans la rue si elle l'entend? Et qu'en est-il pour les amis de son mari chez elle? Doit-elle les saluer? Qu'Allah vous récompense de m'éclairer à ce sujet.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Fi saut? Alhamdulillah. Naam. Le fait de répondre le salam, le fait de salam, naam, entre homme et femme, ou là, entre naam, femme et homme, naam, je dis bien répondre, hein, n'est pas interdit. Il est même conseillé. Il est conseillé de répondre le salam à quelqu'un qui nous dit salam alaikum, que ce soit un homme ou une femme. Si moi je suis un homme, une femme me dit salam alaikum, je lui réponds, je lui dis alaikum salam. Et si c'est le contraire, un homme dit salam alaikum, et il y a une femme qui l'a entendu, elle lui dit wa alaykoum salam. Seulement, elle ne répond pas si elle craint la fitna. Si elle sait que, en lui répondant, elle va rentrer dans les problèmes, et que le fait de lui répondre, ça va pas s'arrêter là, mais ça va, yani, ça va donner autre, ça va dégénérer autre chose. Dans ce cas, elle lui répond pas. Ou là, si elle sent que la personne lui a dit salam juste pour l'embêter et pour après lui dire des choses, dans ce cas elle lui répond pas. Mais si c'est quelqu'un de sérieux qui a dit salam alaikum, quelqu'un de naturel, quelqu'un, je réponds naturellement, je dis alaikum salam wa rahmatullah, et je continue mon chemin. Ou là, quand je rentre dans le dans un magasin, ou là quand quelqu'un rentre dans mon magasin et me dit salam alaikum, je lui dis alaikum salam, et comme ça, la même chose dans la maison. Naam, dans la maison, si les amis de mon mari me disent salam alaikum, ils sont en train de me parler à moi, ils me disent salam alaikum madame X, je dis alaikum salam wa rahmatullah. Naam, ce n'est pas interdit. Maintenant, si quelqu'un répond à ma place, bien sûr, ce n'est pas obligé que tout le monde réponde, dise wa alaikum salam, une seule personne répond. Mais si je veux répondre à quelqu'un, je lui dis alaikum salam, ce n'est pas interdit. Naam. Tfadl, inshallah ta'ala.
Pour les personnes qui sont nouvelles sur Paul Talk, je vous explique un peu le fonctionnement. Si vous avez une question à poser, il faut lever la main, Inch'Allah, et attendre votre tour, que vous soyez déraidé, pour poser votre question. Oum Yasmine 59, à votre tour, Inch'Allah. Ah non, c'est pas... Si, Oum Yasmine 59. Le temps que Oum Yasmine 59 répare sa question, on passe à Oum Abdelrahman 1. C'est à votre tour, Inch'Allah. Donc je répète, barakallahu fikoum, de préparer vos questions à l'avance pour pas qu'on perde de temps. Si vos questions passent pas sur la room, vous pouvez me les envoyer en PV. J'ai la question de Oum Abdelrahman 1, donc je vais la lire, Inch'Allah. Salam alaikum, Shir. qu'Allah vous bénisse, vous et votre famille qui vous partage à nous. Ma question est, mon mari demande concernant les pantalons et camis. Doivent-ils toujours être par-dessus les chevilles ou pour la prière? Boire l'eau qui reste des ablutions est-il une sunna? Et moi je demande, je porte le sitar depuis 3 semaines, l'alhamdoulilah en France. C'est dur, les gens m'insultent ou me critiquent dans la rue. J'aimerais des conseils du soutien pour renforcer ma foi et mon endurance à ce niveau, sachant que je n'ai aucunement l'intention de le retirer, alhamdoulilah. Barakallahu fikoum. Ok, je répète, inshallah. Mon mari demande concernant les pantalons et les camis. Doivent-ils toujours être par-dessus les chevilles ou juste pour la prière? Boire l'eau qui reste des ablutions est-il une sunna? Et moi je demande, je porte le sitar depuis 3 semaines, alhamdoulillah. Je vis en France, c'est dur, les gens m'insultent ou me critiquent dans la rue. J'aimerais des conseils, du soutien pour renforcer ma foi et mon endurance à ce niveau, sachant que je n'ai aucunement l'intention de le retirer, alhamdoulillah. Barakallahu fikoum.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Vous m'entendez? Alhamdoulillah. Pour le fait de s'habiller, que ce soit pour la salat ou bien pas pour la salat. Naam, c'est une chose obligatoire, que ce soit pour la salat ou bien même si ce n'est pas pour la salat. Yani, ce n'est pas une chose qu'on doit faire seulement dans la salat. Même quand on a terminé la salat, on marche dans un pantalon, par exemple, si on a mis le pantalon qui doit être au-dessus des chevilles. Et on n'est pas obligé de le faire monter beaucoup, mais juste un peu au-dessus des chevilles, juste un peu. Naam. Ça c'est pour le kamis et le pantalon. Reste la deuxième question, si je n'ai pas oublié. Naam. Ce n'est pas de la sunna, ce n'est pas de la sunna de boire. Naam. De boire l'eau avec laquelle on a fait des ablutions. C'est pas de la sunna de boire l'eau avec laquelle on a fait les ablutions. Et troisièmement, pour le sitar, je félicite la sœur qui vient de mettre le sitar en France. Ce n'est pas l'eau qui reste des ablutions. Naam, je parle de l'eau qui reste des ablutions. Quand on termine les ablutions, il reste l'eau. Ce n'est pas de la sunna de la boire. Naam, ce n'est pas de la sunna de boire de l'eau qui reste des ablutions. Naam, ce n'est pas de la sunna. En ce qui concerne le sitar, je dis à la sœur qui vient de mettre le sitar, que Allah Azza wa Jal raffermisse ton cœur et descende la sérénité sur ton cœur et sache que, naam, pour inshallah ta'ala résister, sache que comme a dit le messager d'Allah alayhi salatu wa salam, le paradis a été entouré de quoi? Entouré de makarih, de choses qu'on déteste. Le paradis, ce n'est pas un tapis maintenant orné de fleurs et de parfums. Tu vas marcher, mashallah, sur un tapis, naam, qui est orné plein de fleurs et de parfums jusqu'à ce que tu rentres au paradis. Mais tu vas montrer, pardon, tu vas marcher, naam, sur les épines et sur yani, des choses qui vont faire saigner ton pied. Naam, tu vas marcher sur des problèmes, tu vas marcher sur des tests, tu vas marcher sur des épreuves pour que Allah Ta'ala te montre si tu es sincère ou pas. Si tu crois que en sortant dans la rue avec le sitar que les gens vont t'applaudir et de dire Masha'Allah la soeur, Masha'Allah, naam, c'est que vraiment il ne faut pas s'attendre à cela. Tu as été convaincu par le sitar, tu l'as mis pour le visage d'Allah Azza wa Jal, tu sors et tu laisses les gens crier, hurler, cracher, insulter, tout ça, ça rentre quoi? Ça rentre dans les hasanats, dans les récompenses. Lui, il insulte, et Allah Ta'ala ordonne aux anges de te marquer des récompenses. Lui, il crache, et les récompenses. Lui, il rit de toi, et les récompenses. C'est comme ça. Pourquoi? Tu es dans le djihad. Tu es dans le djihad. Tu es une mujahida. Non. Mais le prophète, qu'est-ce que tu veux dire par là? Où est l'injustice ici? L'injustice des mécréants, là, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas compris. Où est l'injustice ici? Ah, naam. Il m'insulte de leur répondre qu'il m'insulte. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, naam, a entendu quelqu'un qui a commencé à insulter l'autre, naam, il est parti. Et il a entendu quelqu'un qui se laissait insulter, il lui a dit, tant que tu t'es tué, tu l'as laissé faire, il y avait un ange qui répondait à ta place. Un ange que Allah Ta'ala a envoyé, qui répond aux insultes à ta place. Naam. Maintenant, si tu veux leur répondre, œil pour œil, dent pour dent, c'est permis. À condition que, s'il insulte ton père, tu ne lui insultes pas son père. S'il insulte ta mère, tu ne lui insultes pas sa mère. Naam. Mais, il t'insulte toi, tu l'insultes lui. Il crache sur ton visage, tu craches sur son visage. Si tu veux, c'est permis. Mais je voudrais seulement te dire que ça va te mener à rien. C'est juste pour te dire que si tu le, comment on dit ça en français, si tu le méprises, naam, si tu lui donnes pas d'importance, ça va le tuer. Il dit subhanallah, je l'insulte. Je dis fille de kada ou kada, naam, sale ceci cela. Je crache, elle ne me répond pas. Hein? C'est comme si je disais dans mon cœur, sale chien. La caravane passe des chiens à bois. Tu vas le mépriser, il va mourir. Il va mourir de l'âme de colère. Mais si tu veux répondre, c'est permis. Si tu veux répondre, c'est permis, à condition de n'insulter que lui. Naam. Wallahu ta'ala alam. Tafadlal, inshallah, muslim. Tafadlal.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. حياكم الله يا جيسون ان شاء الله بارك الله فيكم نعم شيخ بارابور او ريست دو لو دي ابلوسيون امين يعني مو جا حديث بارابور ا سا اي جو فيو لير ان شاء الله شيخ il a été authentifié par شيخ مقبل رحمه الله تعالى. Donc je vous le lis, Inch'Allah, vous me dites si vous le connaissez. Il a été rapporté de Al-Hussein, le fils de Ali, radiallahu anhum, qu'il a dit, mon père m'a demandé de venir avec l'eau des ablutions. Et il a rapporté qu'à la fin des ablutions, qu'il a faites en faisant chaque mouvement trois fois, qu'il, entre parenthèses Ali, s'est levé en disant, donne-moi le récipient qui contient le reste de l'eau des ablutions. Et il but de cette eau debout. Et le Hussein dit, je fus étonné. Il me dit alors, ne sois pas étonné car j'ai vu ton père, entre parenthèses, car c'est son grand-père, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, faire comme tu m'as vu faire. Il a demandé de l'eau pour ses ablutions et on a vu le reste de debout. Ce hadith est rapporté par An-Nasi et authentifié par Cheikh Muqbil dans son Al-Jami' al-Sahih, chapitre de boire le reste de l'eau des ablutions. Et à mon avis, Allahu A'lam, c'est volume 1, page 515. Fadal, cher.
Wa alaykoum salam, rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Tayyib, moi j'ai répondu, naam, d'après mes connaissances et d'après ce que je sais. Je n'ai jamais lu dans ma vie, dans un des livres des savants, que c'était de la sunna de boire l'eau des ablutions. Naam, depuis que je lis, je n'ai jamais lu ce hadith, ni lu dans un livre, que ce soit de Sheikh Al-Albani, de, naam, où il est dit que parmi la sunna, on boit l'eau de quoi? De yani, ce qui reste des ablutions. Naam. Donc, reste, inshallah ta'ala, à chercher cette chose que vous venez de citer et que je ne connais pas. Naam. Tafadla, inshallah ta'ala, le suivant.
Yasmine 59, c'est à votre tour, Inch'Allah. On passe à Ibrahim 8, Inch'Allah. Puisque Yasmine 59 n'est pas prête. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ya Cheikh. Je voudrais vous rappeler le cas de la sœur du 94 qui est dans une situation critique. Je lui ai parlé, son cas se trouve dans elle Mohsin overblog.com, rubrique aide financière. Barakallahu fikoum. Pouvez-vous me donner le lien qui parle des Habesh? Barakallahu fikoum, qu'Allah vous récompense. Amin.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pour le lien, inshallah ta'ala, le voici. Pour le lien, inshallah ta'ala, le voici. Et allez voir là-bas le gourou Abdullah al-Habashi. Allez voir là-bas le gourou Abdullah al-Habashi. Vous allez le détester en Allah Azza wa Jal, en le voyant seulement. En le voyant seulement, vous allez le détester en Allah Azza wa Jal. Allez voir les voyous des Habesh, comment ils sont photographiés dans les tribunaux pour l'argent qu'ils ont volé et les crimes qu'ils ont faits. Tayyib. Et pour la sœur qui est en détresse, jazakumullah khairan, pour ceux qui peuvent l'aider, qu'ils voient ça dans le Mohsinin Overblog. Inch'Allah ta'ala. Naam. Tfadla inch'Allah ta'ala le prochain.
Abu Talha 93, à votre tour inch'Allah. Salam alaikum, Shihana. Me permettez-vous de poser deux questions? Barakallahu fikoum. Je rappelle que la règle c'est une question inshallah, d'autant plus quand il y a beaucoup de monde qui y attend, mais Shira a donné la permission pour le frère. Donc tafaddalahi. Et c'est la dernière question après Abu Talha, il n'y a plus d'autres questions parce qu'il est 1h du matin au Koweït, ce qui est très tard pour Shira. Est-ce que un Rachid et un Nour sont des noms d'Allah et Allah a-t-il des yeux? Si oui, peut-on dire combien?
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, je vais répondre à celui-là et normalement c'est la dernière question. Mais il y a Abu et Ninin qui lèvent la main. On va faire de leur question la dernière, inshallah ta'ala. Al-Rashid n'est pas un nom d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'on dit Haroun al-Rashid. On ne dit pas Haroun Abd al-Rashid pour le grand calife. On dit Haroun al-Rashid et on ne dit pas Haroun Abd al-Rashid. Reste quoi encore? An-Nur. An-Nur, il y a une divergence entre les ulama. Certains comme Ibn al-Qayyim, rahimahullah, on dit An-Nur c'est le nom d'Allah. Et d'autres, comme c'est l'avis, inshallah ta'ala, le plus juste, que Nour n'est pas un nom d'Allah. Car Allah ta'ala dit dans le Coran, Mathalu Nourihi Kamishkat. Mathalu Nourihi. L'exemple de sa lumière. Donc il a annexé la lumière à lui. Mathalu Nourihi. Donc il y a lumière et il y a Allah. Quand je dis la clé de ma porte. Ça veut dire il y a la porte et il y a la clé. Hein? Quand je dis le cartable de l'écolier, il y a le cartable et il y a l'écolier. C'est pas la même chose. Ici la même chose. Il a dit la lumière d'Allah. Mathalu nurihi. Donc il y a Allah et il y a la lumière. Donc la lumière c'est pas Allah. Et aussi qu'est-ce qu'il a dit aussi? Hein? Et il a dit Attendez, je suis en train de chercher la question. Et il a dit est-ce que Allah Ta'ala a des yeux? Si oui, peut-on dire combien? Naam, les salafs, les pieux prédécesseurs, qui sont pas des Habèches, naam, qui sont pas des Habèches, mais qui sont les compagnons. Et leurs enfants et les grands savants, naam, les yeux ont été cités dans le Coran, le verset et dans le Hadith. Naam, dans le verset il y a les yeux. Naam, il y a les yeux. Et il y a l'œil. Aïné. Naam. Et le hadith, en parlant de du faux messie, il a dit quoi? Il a dit qu'il avait un seul œil. Et que Allah Ta'ala n'était pas borgne. Ça veut dire que Allah Ta'ala avait deux yeux. Deux yeux, pas comme nos mains, rien ne lui ressemble. Comme il a une vie qui lui convient, rien ne lui ressemble. Et comme ça, Azza wa Jal, Naam, le dogme, aqida des salaf salah, pas la aqida des gens de nos jours. Mais qui peut, mais qui va les entendre? Alhamdulillah, le mufti, le grand savant du Liban lui-même, il est contre eux. Le savant du Liban lui-même, où il vit au Liban, il est contre Allahu Akbar. Personne ne les suit. Tous se sont désavoués d'eux et les ont jetés. Ils ont dit ce ne sont pas des musulmans, on ne les suit pas. Alhamdulillah. Tafadlal.
Abou et Umninin, à votre tour, Inch'Allah, c'est la dernière question. Abou et Umninin m'ont envoyé leur question en privé, je vais la lire. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ya shir, ahyakum Allah. Il y a un hadith qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que celui qui prie le fajr en jama'a et reste en invoquant Allah jusqu'au lever du soleil, puis accomplit deux akrat, cela lui équivaut à un hajj complet. Ces deux unités de prière rentrent-elles dans Salat Duha ou ce sont deux autres rak'atin à part? Jazakumullahu khairan, shir.
Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fi sawt. Alhamdulillah. En fait, je suis très content. Je suis très content, naam, pour le frère Abu Abdurrahman. Naam, Abu Abdurrahman, mashallah, qui dit salam alaykum. Je tiens à informer tout le monde ici, dans ce forum, que j'ai repris mon travail. Comme quoi je ne sers pas la main aux femmes. Donc ils ont accepté le fait que je ne sers pas la main. Que je ne sers pas la main. Et que je travaille avec ma barbe. Et ils ont accepté que je fasse ma salat le vendredi à la mosquée. Je remercie Allah pour cette ni'ma. Je dis, moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment une grande ni'ma. Allahu Akbar. Regardez, quelqu'un, quand il est sincère avec Allah Ta'ala, cette personne était en congé. Entre temps, elle a laissé pousser la barbe. Et elle disait, comment maintenant je vais revenir au travail? On va me dire pourquoi tu as la barbe. Et comment je vais faire pour ne pas serrer la main aux femmes. Et comment je vais dire pour la salat. Regardez cette personne qui a été sincère avec Allah Ta'ala. Cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écrit, hein, les causes, elle prend les causes. Elle a écrit à la directrice. Madame la directrice, veuillez me comprendre, etc. Voilà, je ne peux pas serrer la main aux femmes à cause de ceci, cela. Et regardez, Allah Ta'ala a fait descendre, naam, dans le cœur de la directrice qu'elle devait l'accepter. Elle devait accepter mon serviteur. Allah Ta'ala a fait descendre dans le cœur de cette directrice, tu dois accepter. Tu dois accepter cette personne et elle doit travailler chez toi avec la barbe sans serrer la main aux femmes et tu la laisseras faire salat al-jumwa. Allah Ta'ala lui a dit, c'est moi qui commande, c'est pas toi. C'est moi qui ai créé l'univers et qui t'ai créé, toi, la directrice. C'est moi qui te commande, c'est moi qui fais dans mon univers ce que je veux. Tu vas laisser cette personne travailler avec la barbe. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Allahu Akbar. Il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Naam, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله اكبر. Et je dis à la personne qui parlait tout à l'heure du hadith, naam, que les deux rak'at qu'elle va faire pour sa hajj ou umra, Ce sont les deux premières rak'at de la salat al-duha. Naam. Ce sont les deux premières rak'at de la salat al-duha. Naam. Ensuite, je demande à qui? Je demande à Ibn al-Qayyim. Est-ce que c'est la question de Abu Ninin? Al-Ghuraba. Muslim al-Ghuraba. Ne partez pas, inshallah ta'ala. On va parler un peu du formatage et ce qui s'ensuit. Je dis aux personnes qui ont assisté, jazakumullahu khairan. Et je vous verrai, inshallah ta'ala, mercredi. Mercredi, inshallah ta'ala, dans le danse de la Aqida. Dans le danse de la Aqida. D'ici mercredi, je vous laisse dans yani hifzillah azza wa jal. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous préserve tous et toutes. Naam, et qu'il raffermisse nos cœurs. Et qu'il nous fortifie la foi. On me demande, Cheikh, c'est quand votre séminaire en France ou en Belgique? Naam. Je n'ai pas encore entendu que j'avais un séminaire en France ou en Belgique. Maintenant, s'il y a une autre personne avec mon nom qui va venir faire le séminaire et qui est déguisée comme moi, naam, et elle porte mon nom, celle-là, je ne sais pas. Mais si c'est moi, ce n'est pas moi, Yatihal. On m'a demandé de poser une question. Tayeb, tfadli, Aïssa 95. Aïssa 95, tafadli. Laissez-la poser cette question, peut-être qu'elle est très importante. Et pourquoi pas aussi Ayman 92, car on l'a sauté. Naam.
Aïssa 95, tafadli, Inch'Allah. On attend votre question. Elle apparaît pas sur la room. Envoyez-moi là en PV. Barakallahu fikoum. Aïssa 95. Mon cher, en attendant, Inch'Allah, je vais poser la question de Abou Talha 95. Parce qu'on l'avait sauté. Donc sa question c'est: Salam alaikum, Shihana. Je vis en France avec ma femme. Je cherche du travail. J'ai eu, alhamdoulilah, des propositions, mais il y a toujours le même problème. C'est que pour tout travail, la salat du vendredi, je peux plus la prier à la mosquée. Bref, il y a des hadiths clairs sur celui qui prie pas Jumu'a. Cependant, j'ai entendu des shirs dire que comme on n'entend pas l'Eden, le hukm, c'est pas comme dans un pays de musulmans, donc c'est pas obligatoire. Mais pour Jumu'a, je suis pas sûr, conseillez-moi, Shihana, comment je peux faire.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, j'ai lu beaucoup de fatwas des savants qui vraiment yani, insistent beaucoup sur Salat Jumu'ah. Maintenant, si Salat Jumu'ah, la mosquée est loin, de façon à, s'il avait fait l'appel, tu l'aurais pas entendu. S'il avait fait l'appel, sans micro, et qu'il n'y avait pas d'immeuble, c'était comme ça, assez plat, comme une plaine. Et quelqu'un qui a une voix très forte, il fait l'appel. Et je peux pas l'entendre, ça veut dire qu'il est loin de moi. Donc la Jumu'ah n'est plus obligatoire. Car la Jumu'ah, naam, il faudrait pas que ça soit loin au point où je ne puisse pas entendre le adhan s'il le faisait normalement. Naam. Mais je dis à mon frère que en général, yani, il faut beaucoup insister pour aller faire la Jumu'ah si la mosquée n'est pas loin. C'est pour ça, continuons à faire des doigts que Allah Azza wa Jalla t'ouvrira une porte bientôt. Moi aussi on te fera des doigts pour qu'Allah Ta'ala t'ouvre une porte bientôt bi'idhnillahi Azza wa Jalla. Naam. Et on peut des fois faire comme ça une petite démarche comme a fait le frère ici, il a écrit à la directrice. Tu pourrais écrire par exemple au responsable de dire par exemple que voilà, je suis prêt à ce que vous m'enleviez par exemple tant d'euros pour me laisser faire la prière de la Jumu'ah. C'est une chose obligatoire dans notre religion, etc. Hein? Je suis sûr que peut-être ils vont respecter la religion. Ou bien tu vas leur dire, je suis prêt à travailler par exemple jusqu'à telle heure et telle heure. Toi tu ne perds rien, fais une demande et peut-être qu'Allah Ta'ala yani, va raffermir leur cœur et te donner une issue que tu n'attendais pas. Allah Azza wa Jal alam. Aqala inshallah la dernière question, tafadhal.
Salam alaikum, Cheikh. Une sœur demande si elle peut faire une chirurgie esthétique pour raffermir sa peau, car suite à son dernier accouchement, elle a la peau relâchée et son mari n'aime pas son ventre et lui demande de faire la chirurgie. Peut-elle le faire? Barakallahu fikum, qu'Allah vous préserve, vous et votre famille. Amen. Salam alaikum.
Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, attention que c'est une esthétique, que c'est une esthétique réparatrice. Et non pas, pardon, j'ai dit esthétique. C'est une chirurgie réparatrice et non pas esthétique. Elle se dit, je vais faire cela non pas parce que je veux être belle, mais parce que je me réparer et devenir normal, car j'ai maintenant yani, ma peau comme ça qui a lâché, femme. Mais je veux réparer ce défaut. Je veux réparer ce défaut dû à beaucoup d'accouchements. C'est pour ça qu'elle doit avoir dans la niya, comme j'ai dit, que c'est une chirurgie réparatrice et non pas esthétique. Deuxièmement, si elle peut, elle doit faire son possible pour que ce soit la femme qui fasse cela. Non, elle doit faire son possible pour que ce soit un professeur femme, non, si c'est possible, qui fasse cela. Non, dans le besoin. Ce n'est pas une chose obligatoire, cette chose. Si elle allait mourir, etc., non, un homme peut l'opérer. On ne va pas la laisser mourir et lui dire qu'un homme ne peut pas toucher. Ça, c'est impossible en islam. Mais maintenant, c'est une chose qu'elle veut faire en plus. Ce n'est pas une chose obligatoire ni nécessaire. Elle veut seulement plaire à son mari. C'est pour ça que normalement, elle ferait ça dans un endroit où il y a les femmes qui font cela. Ça, si elle le peut, bien sûr. Wallahu azza wa jal a'lam. Je vous dis, inshallah ta'ala, assalamu alaikum. Naam, je vous verrai, inshallah ta'ala, mercredi. J'ai déjà ma tête qui me fait mal. Je vous laisse faire hifdillah azza wa jal. Subhanak allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kulla azza wa jal. Je demande Allah subhanahu wa ta'ala. Salla ala azi al-ali al-qadir. An yahfadana jamin. An yahfadakum. An yuthibbitana ala siratin mustaqim. Wa an yuthibbita qulubana ala dini ihtanal qahwa wa anna radin. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.